Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 3 de la saison 2 du podcast. Et puis aujourd'hui, je reçois Richard Turcotte, l'animateur radio, parce qu'en fait, c'est une semaine spéciale radio, comme vous le savez bien. Dans le premier épisode, on a reçu Sébastien Trudel, actuellement de Énergie, et puis anciennement des Justiciers masqués. Et puis, on a reçu dans l'épisode numéro 2, le légendaire François Fortin du 6 à 6, ça c'est quoi. Et puis aujourd'hui, Richard Turcotte, qui était l'animateur en chef, en fait, des Grandes Gueules, qui mettait en valeur le duo. Et par la suite, comme on expliquait, qui est devenu beaucoup plus impliqué à travers ce qui est devenu un trio. Et puis, c'est vraiment quelqu'un qui a une très, très, très longue carrière, rempli de succès jusqu'à maintenant. On parle de plusieurs beaux projets au niveau de la radio, mais également de la télévision. Et puis, je voulais le recevoir, comme vous le savez, parce que étant une semaine spéciale radio au podcast, c'était très important pour moi de vous faire connaître en fait des parcours de la radio que vous entendez à tous les jours depuis plusieurs années, mais qu'on n'a pas nécessairement la chance de les entendre parler davantage. C'est-à-dire, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est en fait... On entend toujours ces gens-là parler, on les entend raconter de toutes sortes d'histoires, l'actualité, de mettre en valeur des humoristes ou d'annoncer la prochaine chanson, mais rarement qu'on entend ces gens-là parler de leur vie, qu'on entend leur histoire, qu'on entend leur parcours. Et puis, Richard Turcotte, ça n'est un que je voulais recevoir au podcast pour entendre c'est quoi son parcours, parce qu'il est très inspirant. C'est quelqu'un qui a réalisé beaucoup, beaucoup jusqu'à maintenant dans sa carrière, mais par où que débuter également. On en apprend davantage dans le podcast, que ça a débuté à Rouyn-Noranda quand même. Il a fallu qu'il laisse tout tomber, qu'il parte avec ses choses sur un, avec ça carrément. C'est fou, cette anecdote-là. Attendez, c'est vers la fin du podcast que ça va être raconté. Et puis, vraiment, c'était très important pour moi de le recevoir, ces gens-là, pour les mettre en valeur, de mettre leur parcours en évidence et puis qu'on en apprenne davantage sur chacun d'entre eux. Et puis, Richard Turcotte, aujourd'hui, nous a fait beaucoup part de plusieurs anecdotes très savoureuses et très intéressantes. On a parlé naturellement beaucoup de sa relation avec les Grandes Gueules, de toutes ces années, en fait, qu'il a passé avec les Grandes Gueules à l'animation. C'est quand même ce mandat-là, en fait, qui l'a mis sur la map, qui a fait qu'on le connaît aujourd'hui autant. Et puis, c'est une voix qui résonne dans nos oreilles depuis plusieurs années déjà. Comme j'expliquais, c'est pas pour faire vieillir Richard. Je l'écoute depuis que je suis enfant et aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc, ça fait plusieurs années qu'il est dans nos voitures et dans nos télévisions aujourd'hui, car on peut écouter la radio également dans la télé. Et on le voit aussi au niveau visuel, comme je disais, à la poule aux œufs d'or. En fait, il y a des apparitions également dans Caméra Café, des shows du matin. Ça commence bien à V. Il y a déjà de cela une couple de temps. Et plusieurs émissions à Canal Z, dont les pires chauffeurs québécois, qui a été très drôle d'écouter aussi. Il a fait beaucoup de narration aussi. C'est quelqu'un qui a une très bonne voix, qui a développé cette voix-là encore plus à travers les années. Et puis, c'est une grande inspiration pour moi pour le podcast, parce qu'on voit aussi les similitudes entre la radio et le podcast. Et il y a beaucoup de choses que je m'inspire de ces animateurs-là, de leur débit de voix, de leur façon de faire des entrevues. C'est vraiment très, très inspirant. Et puis, en plus, si ça peut vous inspirer, parce que c'est des passionnés, c'est surtout ça qui revient entre chacune des entrevues jusqu'à maintenant. Ce sont des passionnés de radio et de ce qu'ils font dans la vie. Ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'ils font ça et chacun est toujours aussi passionné de leur métier. Et ça, malgré plusieurs changements, parce que la radio, c'est pas évident. Comme on le sait, là, la radio, on peut avoir un poste qu'on adore et du jour au lendemain, les parts de marché sont plus là, les codes d'écoute sont passés là et là, tout d'un coup, whoop, tout est cancellé, on change d'équipe, puis bang. La radio, c'est constamment en changement. C'est ce qu'on a parlé beaucoup également avec Richard aujourd'hui. Il va nous expliquer ses impressions parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements dans sa carrière. Parce que Richard aujourd'hui est sur les ondes de Rouge FM. On peut l'entendre à chaque matin avec Mika Guerrier et Anne-Élisabeth Bossé à tous les matins, 5h25 sur les ondes de Rouge. Et puis, comme on le sait, Rouge a changé pour devenir un peu plus jeune également dans la dernière année. Beaucoup plus axé sur ma tranche d'âge directement. Dans le passé, c'était plus la tranche de mes parents, là, c'est devenu plus jeune. Énergie a pris un virage un peu plus classique rock, donc ça s'est vieilli un peu plus. comme on disait, ça fait partie de la constance évolution de la radio. Donc, c'est vraiment très intéressant, tous ces sujets-là. Je vous dis, écoutez le podcast, vous allez en apprendre davantage sur la vie de Richard Turcotte qu'on entend depuis tellement d'années et que maintenant, vous allez avoir la chance d'entendre de son parcours et d'en apprendre davantage sur toute sa belle histoire. Et je vous garantis que vous allez être inspiré par son parcours. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite une excellente écoute sur les ondes du Made in Québec podcast pour l'épisode numéro 3 de la saison 2 en compagnie de Richard Turcotte. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Et aujourd'hui, je reçois Richard Turcotte. Et oui, le seul et unique Richard Turcotte pour le troisième épisode de la saison 2 du Made in Québec podcast. Et oui, c'est une semaine spéciale radio, comme vous le savez déjà, parce qu'on est rendu au troisième épisode. Et puis, j'ai reçu dans le premier épisode Sébastien Trudel, naturellement, ancien des justiciers masqués d'énergie. Et puis, j'ai reçu dans le deuxième épisode François Fortin de C'est quoi? Et aujourd'hui, Richard Turcotte, ça fait une belle brochette d'invités. Et puis, on veut en apprendre davantage sur le merveilleux monde de la radio au Québec. Et puis, que demander mieux avec des gens d'expérience comme ça? Et puis, Richard est très bien placé pour nous parler de la radio. Il est encore actif beaucoup dans la radio aujourd'hui. Et puis, il y a énormément d'expérience derrière la cravate. Et parlant d'expérience, on va faire un petit topo rapide avant d'entrer dans les bonnes questions qu'on a à poser à Richard aujourd'hui pour parler de sa belle carrière. Écoute, c'est long, je vais résumer ça le plus rapidement possible. Écoutez, Richard est né à Sherbrooke en 1969. Et, non, on ne fera pas une longue biographie, là, mais oui, pour ceux qui voulaient savoir, il est né à Sherbrooke. Il y a deux frères, en fait, qui chantaient dans une chorale. Oui, tu te demandes sûrement pourquoi je vais là, mais j'ai fait mes recherches.
Ouais.
Et puis, ça, il y a deux frères qui chantaient dans une chorale qui l'ont incité à développer ce talent-là au niveau de la musique, du chant et de l'intérêt, si on veut, au niveau musical. Et puis, à l'âge de 2 ans déjà, le jeune Richard fait ses débuts dans cette chorale. Et puis, par la suite, ben là, on tombe dans l'adolescence. Son frère l'incite à acheter une disco mobile. Et puis, Richard se met à animer des soirées comme ça, des parties. Puis là, l'intérêt pour l'animation débute à ce moment-là. Et là, c'est sûr dans sa tête qu'il veut faire de l'animation radio. Et puis, 1991, ce n'est pas pour te vieillir, mais j'étais pas encore né, Richard. Et puis...
Ça fait mal, hein?
Et puis, il fait ses débuts à la radio en Estrie. Et puis, c'est là que la belle épopée débute. Par la suite, il anime plusieurs émissions matinales à Magog, en Estrie, à Rouen également. Et puis, en 2001, déménage à Montréal, dans la grande ville, pour s'établir à CKMF, anciennement Énergie, qui est devenu aujourd'hui. Et CKMF pour les Grandes Gueules, alors, comme on l'a connu très, très bien avec les Grandes Gueules pendant plusieurs années. Et puis, l'animateur, en fait, avec le duo. Et par la suite, les Grandes Gueules, on connaît le grand succès qu'ils ont connu ces 6 années consécutives, l'émission la plus écoutée au Canada. On parle de 1 206 000 en moyenne auditeurs fidèles. C'est vraiment incroyable comme succès que ces gars-là ont eu. Et puis par la suite, il y a eu une petite pause avec les Grandes Gueules en 2008 et Richard a décidé de faire le saut à la télévision. Et on l'a souvent vu à des émissions comme à l'animation d'ailleurs, à Salut Bonjour Week-end. Et également, on l'a vu dans des émissions matinales à V aussi, qui a animé Ça commence bien. Et puis, retourné à Énergie de 2010 à 2015 avec Les Grandes Gueules encore lors de leur retour à la radio, qui a été un autre franc succès. Et puis là, Les Grandes Gueules ont décidé de tirer la plug à nouveau, puis de partir chacun de leur côté. Richard également a parti ses projets de son côté. Ceux qui se demandent, oui, Richard écrit également des chansons. J'avais cru entendre ça, je n'étais pas certain en faisant mes recherches. Oui, effectivement, je valide l'information. Il a composé des chansons pour Mario Pelcha, Annie Villeneuve, Marie-Chantal Toupin, Olivier Dion. Vraiment, c'est des belles collaborations que Richard a pu faire à travers sa carrière. Et oui, on l'a aperçu également comme comédien dans certaines émissions humoristiques comme Caméra Café, Trois fois rien Il était une fois dans le trouble, une émission que j'ai beaucoup aimée à l'adolescence. Ça a été une très, très drôle d'émission. Et 2015 également, il a été à l'animation, en fait, de l'émission Les pires chauffeurs québécois à Z Télé. Ceux qui l'ont vu, c'était très drôle, ça également. Je ne sais pas si c'était le but d'être drôle, mais il y en a qui chauffent mal au Québec.
Partout.
Mais en tout cas, à Montréal, il y en a une couple.
On en a des bons.
Ouais. Il a également été l'auteur d'un livre qui s'appelle « Être l'artiste de sa vie ». C'est un livre qui est vraiment très intéressant. Ceux qui veulent se le procurer dans tous les bons libraires du Québec, c'est un livre qui porte vraiment sur l'inspiration, si on veut, et par la suite, se donner le petit coup de pied dans le derrière pour être maître de ses propres rêves. Et 2020, à l'animation également de l'émission cette année, en fait, on est tous debout à 5h25 tous les matins à Rouge FM avec Anne-Élisabeth Bossé et Mickaël Guerrier. C'est un également Pierre-Yves Roy Desmarais, c'est en collaboration, si on veut le mentionner aussi. C'est vraiment une très belle carrière, Richard, que tu as. J'ai essayé de faire ça le plus court possible, malgré que c'est une très longue carrière. Alors, merci beaucoup.
Après avoir écouté tout ça, je pense que je peux mourir. Là. C'est bon, c'est fait.
C'est comme l'émission « Prière ne pas envoyer de fleurs ». Tu sais, un coup,
ah,
on voit tout l'ensemble de la carrière. Ça permet de réaliser à quel point qu'on a réalisé des grandes choses. Puis dans ton cas, wow, toute une carrière pour vrai. Là, je te lève mon chapeau.
Mais t'es bien gentil. Ben, c'est sûr qu'à la radio, j'ai commencé, j'avais 18 ans. Puis là, j'en ai 50. Fait que il y a des années à remplir. Sinon, ouais. Je fais rien, je reste chez nous. Fait que, puis moi, j'ai un gars qui aime ça, avoir des projets puis bouger. Donc, quand j'ai des projets, il me semble que c'est là que je vibre le plus. Pour, quand je viens le temps de créer quelque chose, là, ça m'excite bien gros.
Ben oui, exactement. Puis écoute, je pense que tu es très bon pour créer, comme tu dis, au niveau créatif. Tu es un artiste dans l'âme au niveau musical, composition, l'animation. Tu sais, c'est vraiment beaucoup de projets en tête. Et puis, je pense de ce que j'ai vu en faisant mes recherches sur toi, je te connaissais déjà bien, mais j'adore ça, inviter des invités que je connais déjà parce que j'ai toujours l'impression que je connais le monde. Puis un coup, je fais des recherches sur eux. Je me dis, waouh, je savais pas qu'ils avaient fait ça. Je me souvenais pas de ça. Puis ça permet de réaliser à quel point que la personne en a fait du stock. Et dans ton cas, ce que j'ai le plus remarqué dans ta carrière, c'est la résilience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont une claque d'en face par, mettons, un projet qui se termine à la radio subitement. Puis là, ben, ça retrouve, qu'est-ce que je fais? Et on les revoit plus pendant plein d'années. Dans ton cas, tu t'es toujours recyclé très rapidement dans un nouveau projet. Et j'ai même pas mentionné, excusez, la poule aux œufs d'or aussi. J'avais complètement oublié. Mais c'est toi qui fais la voix également à la poule aux œufs d'or cette année. Vraiment, écoute, c'est fou pareil, comment tu réussis à rebondir à chaque fois. Comment tu le vis, toi, justement, tous ces changements-là que tu as vécu dans ta carrière, qui ne sont pas souvent prévus non plus, là, comment tu le vis?
Bien, je pense qu'au début, quand venait le temps de trouver d'autres projets que la radio, c'était par de l'insécurité. Parce que je me disais, moi, c'est ça que je veux faire de la radio dans la vie, mais si la radio me laisse tomber, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais y arriver? Donc, c'est là où je me suis mis à chercher pour essayer de trouver des projets parallèles. Puis, au début, quand j'ai commencé à Sherbrooke aussi, je faisais beaucoup de... À un moment donné, je faisais beaucoup de reportages en direct. Donc, je faisais mon émission du matin. Mais après ça, j'allais chez un concessionnaire automobile, peu importe. Puis là, je faisais des reportages. Puis, j'étais rendu que je faisais 16 jours de reportage sur 30 par mois. Donc, puis là, c'est un jour sur deux, là, tu sais. À la longue, je me suis dit, oui, c'est le fun, c'est intéressant pour la paye. Mais ce que je fais, c'est que je suis en train de vendre tout sauf moi. Fait que je vends des chars, je vends des tondeuses, je vends ci, je vends ça, mais moi, là, je me vends pas, tu sais. Fait que je me suis dit, ouais, OK, la prochaine étape, ça serait de faire de la télé, combiner ça à la radio, puis là, ben au moins, un va nourrir l'autre, tu sais. Mais le fait que les gens me voient, me reconnaissent visuellement, ben ça va m'aider à la radio, puis la radio va m'aider à me faire reconnaître visuellement, et ainsi de suite, tu sais. Ils vont mettre une face sur un nom, et ainsi de suite. Puis à partir de là, je me suis mis à faire des cours de théâtre pour... aussi, en fait, parce que je me disais, je veux pas être une caricature d'un animateur radio éventuellement, parce que je voyais certains animateurs, puis sans vouloir dénigrer qui que ce soit, qui disaient, moi, je peux pas dire ça, je suis un animateur radio, tu sais. Mm-hmm. Et moi, je voulais avoir une liberté, la liberté de, si t'as quelque chose à exprimer, exprime-le, puis exprime-le pleinement, puis tu sais, fais-le pour vrai, mets tes tripes sur la table, puis... Oui. Fait que j'ai fait des cours de théâtre à Sherbrooke, puis ça m'a amené justement à jouer un peu. T'sais, j'ai joué 6 ans au théâtre, une pièce oui. Avec des boys. Pis,
je l'ai noté, mais j'ai oublié de la dire en plus.
C'est pas grave, mais ça m'a donné cette espèce de guts-là aussi d'être en avant d'une caméra puis de l'assumer, de ce que tu vis. Puis donc, là, je me suis mis à faire de la télé à Sherbrooke. Je faisais les bulletins de météo puis de nouvelles culturelles dans les bulletins d'actualité. Puis de fil en aiguille, c'est là où je me suis retrouvé à faire les tirages de l'Auto-Québec à Montréal. Mais j'étais à Sherbrooke, je faisais le show du matin à radio. Puis là, je me suis mis à combiner les deux, télé-radio. Puis je pense que je n'étais pas fou dans mon affaire parce qu'effectivement, je trouve que c'est vraiment, un nourrit l'autre. Puis ça, c'est le fun quand tu réussis à trouver, dans n'importe quel domaine, en fait, quand tu réussis à combiner des passions qui nourrissent les unes aux autres, ça me semble que, tu sais, les gens me disent souvent, qu'est-ce que tu aimes mieux, la télé ou la radio? J'aime le fait de pouvoir combiner les deux, tu sais. Puis même le fait de pouvoir faire de la musique aussi, c'est une autre affaire, tu sais, la musique, ça m'a un peu, ça a toujours été là, j'ai toujours capoté sur la musique, mais je pense que le fait d'écrire des chansons, moi, j'écrivais déjà des poèmes, des choses comme ça quand j'étais plus jeune. Puis quand j'ai rencontré mon partner, Christian Sbroka, on s'est mis à parler de musique, mais comme des fous, là, tu sais, on en parlait sans cesse, on s'envoyait des tunes à écouter et ainsi de suite, puis on les décortiquait. Tu sais, pourquoi t'aimes celle-là? Pour telle raison, dans le bridge, fais telle affaire. Je trouve ça capoté. Puis à un moment donné, il m'a dit, écoute, j'ai comme une petite idée de chanson, mais ça débloque pas. Tu sais, j'ai comme juste, j'ai dit, ben écoute, joue-moi là sur le piano, puis en loop, puis on verra. Puis il s'est mis à jouer le petit extrait, puis moi, je me suis mis à chanter une mélodie vocale. Là, il m'a regardé, il a fait « hop ». Là, il a continué les accords. Puis là, ben ça a marché. Puis tellement que de cette chanson-là, on a écrit plein d'autres. Puis là, suite à ça, j'ai dit à mon partner, à un moment donné, on faisait des chansons. J'ai dit « faudrait en faire pour d'autres. Faudrait en faire pour d'autres parce que, toi, on a fait ton album, là, mais tu vois pas un album à chaque deux mois. » Et on est en feu, fait qu'on se souvient de... Oui. À partir de là, on a écrit pour d'autres. On dirait que de le dire, de le nommer, ça donne, tu l'envoies dans l'univers, puis ça fait en sorte que ça peut arriver plus facilement.
Ça déboule. Hein?
On a écrit pour d'autres. Après ça, j'ai dit, ben là, chaque fois qu'on fait un démo, le démo se retrouve dans... Il faut aller dans un studio pour enregistrer le démo comme il faut, puis c'est la personne qui enregistre le démo qui ramasse l'argent que l'artiste veut bien investir. Ça marche pas. Fait que là, ça prend un studio. Et comme de fait, la semaine d'après, il y avait un gars qui avait un studio à vendre qui connaissait Christian. Il disait, hey, tu le veux-tu? Moi, je vais le vendre 25 cents dans la pièce. On l'achète. Deux semaines après, il y avait un studio dans le sous-sol chez Christian. Puis plus tard, je sais pas pourquoi je commence souvent mes phrases comme ça, mais je dis, ça marche pas notre affaire. On fait de la musique, je fais de la télé, mais on fait pas de musique pour la télé. Puis on a un studio. Ça marche pas.
Ben oui.
À partir de là, on s'est mis à faire de la musique pour la télé. Puis là, on doit avoir...
Les trames sonores.
Oui, on fait la musique pour la télé. On doit avoir une vingtaine d'émissions sur lesquelles on fait la musique ensemble. Puis, il s'agissait probablement de connecter. Quand je dis qu'un nourrit l'autre, là, je trouve que là, j'étais à une belle place où ce que je fais dans la vie, il y a moyen de faire un grand cercle avec tout ça.
Ah oui, parce que là, tu touches vraiment à tout. C'est, je regardais ta carrière et je me dis, c'est fou. Je pense qu'il n'y a rien qui n'a pas touché dans le domaine artistique, musical, la télévision, la radio. C'est rare vraiment que quelqu'un ait la chance de toucher à tout ça. Un peu comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais tu sais, pourquoi t'aimes-tu mieux la télé, la télévision? Quelle t'aimes plus? » Mais pourquoi choisir? T'sais, c'est plus ça, en fait. C'est, moi, je fais des conférences, je fais de la photo sportive, je fais un podcast. Mais pourquoi choisir lequel t'aimes le plus faire? Tu peux faire les trois. Les trois n'ont pas nécessairement un lien, mais si les trois te rendent heureux, la combinaison des trois t'apporte chacun quelque chose que l'autre ne peut pas t'apporter, bien, c'est là que ton cercle, comme tu dis, est complet puis que tout se rejoint, se connecte ensemble. Fait que dans ton cas, c'est vraiment c'est la boucle est parfaite en ce moment.
Des fois, on dirait que ça sécurise les gens de savoir, toi t'es où? T'es quoi dans la vie? Maintenant, il y a des chanteurs qui animent à la radio, t'as des animateurs qui jouent sur scène, font des shows d'humour. C'est comme si... Dans le fond, tu as le goût de faire un projet, ben travaille fort, sois inventif, puis fais-le, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben tu as le droit à l'erreur, puis recommence. Puis si ça marche pas encore, tu as le droit de recommencer encore à nouveau, c'est même pas grave.
Ah, wow, je vais garder le bout que tu viens de parler, que tu viens de dire ça, parce que le but du podcast, je l'ai créé pour inspirer les gens. Au début de la pandémie, surtout, que j'avais parti, puis j'essaie de recevoir des parcours comme le tien qui sont très inspirants, que même les gens connaissent, mais tu sais, toi, tu n'as pas nécessairement le micro. Oui, tu as le micro à chaque jour, mais tu n'as pas le micro pour parler de ta vie nécessairement, d'exprimer vraiment ton parcours, puis tu sais, d'un podcast, c'est... Tu n'as pas de stress, tu n'as pas de temps, il n'y a pas personne qui dit dans l'oreille, OK, il te reste 30 secondes. Fait que tu es libre de dire ce que tu veux, comment tu le veux. Puis je pense que c'était ça, en fait, le but initial du podcast. Ce que tu viens de dire là, c'est carrément ça. C'est pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu sais, il n'y a pas de stress. On a tout un rêve à quelque part qu'on se dit « Ouais, mais moi, je peux pas parce que je fais ça en ce moment dans ma vie. » Mais tu peux le faire à côté. Tu peux le développer quand même. Tu peux, tu sais, il y a toujours façon de le faire. Puis en recevant des gens comme toi qui font plusieurs choses à la fois pour être heureux, ben ça prouve que c'est très bien faisable.
Ben, ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, on se met nos propres limites. C'est souvent la peur de se tromper, la peur d'être jugé. Puis c'est compréhensible, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, je me suis trouvé une clé pour me sortir de là, c'est que je me dis, j'ai autant le droit de faire ce que je fais n'importe quand là que vous avez le droit de me juger. C'est égal.
Tellement.
Donc,
tellement bon, ça.
Je vous laisse me juger, ça ne me dérange pas. Là. C'est correct, vous avez le droit parce que j'exerce un métier public.
Ah oui.
Je ne suis pas un gars qui travaille dans un plombier dans une maison. Là, je pourrais me faire juger juste par les propriétaires de la maison qui font comme ben, il a bien travaillé ou il n'a pas bien travaillé. T'sais. Moi, c'est public, donc je sais dans quoi je m'embarque par rapport à ces gens-là, mais j'ai aussi le droit de m'exprimer et de le faire. Donc, au bout du compte, si tu me dis « j'aime pas ça », ça m'est arrivé, moi, une des premières fois que ça m'est arrivé à la radio, quelqu'un m'avait envoyé un courriel, puis c'était vraiment, tu sais, genre, toi, là, je suis pas capable. Pas capable de toi. J'ouvre la radio, je t'entends, pas capable. Puis tu sais, c'était relativement
méchant, ouais.
Personnel, tu sais.
Oh, ouais.
Puis moi, j'étais insensible dans la vie, tu sais. Fait que, puis je veux pas perdre ça, la sensibilité, parce que je me dis, tu sais, c'est sûr que je m'endurcis avec le temps, mais ma sensibilité, c'est ce qui me permet de créer, fait que je veux pas me faire une carapace qui va faire en sorte que je suis plus capable d'aller dans mes émotions. Sinon, je suis fait, là, j'écrirai plus de chansons, puis je serais plus capable de me mettre dans la peau des autres pour leur écrire des chansons, et ainsi de suite. J'ai pas dormi de la nuit. Là, j'étais rendu que j'animais en pensant à cette personne-là, puis en me retenant, puis en essayant différent dans ma façon de faire. Puis à un moment donné, ma petite voix dans ma tête m'a dit « OK, toi, t'es drôlement fait, hein? » Comment ça, je suis drôlement fait? Ben, tu reçois des félicitations, puis t'es bon, puis c'est ça. Tu fais comme « Hey, ben merci. »
Merci, c'est
puis
ça.
Tu continues ton chemin, comme si de rien n'était. La seconde qu'il y en a un qui fait comme « Toi, pas capable. » Ah, là, tu lui donnes de l'importance, par exemple. Ah, là, lui...
L'humain
là,
est mal fait, mais c'est tellement vrai.
Lui est plus important. Tu donnes 100 fois plus d'importance à cette personne-là qui t'aime pas qu'aux 100 autres qui t'aiment.
Ça n'a aucun sens.
Là, c'est bien trop vrai. Fait que j'ai pris le clavier, puis j'ai réécrit à cette personne-là « Écoute, tu as le droit à ton opinion, et c'est parfait. Moi, j'ai le droit d'exercer mon métier. Puis comme je te veux pas de mal, voici mon conseil. Change de poste.
Change le de meilleur poste. Conseil que tu pouvais donner.
Hey! Quand j'ai écrit ça, ça m'a libéré.
Ouais,
c'était comme, ah, oh, alléluia! Je veux pas envoyer de promener le monde, là. Je veux juste que, mon Dieu, fais-toi pas de mal.
Tellement.
Moi, je ne vais pas arrêter de travailler. Pas, là, c'est pas vrai, là. Ouais. C'est pas vrai. Par contre, toi, tu as le choix de mettre le doigt sur le bouton pour changer. Puis ceux qui m'aiment, ils mettront le doigt sur le bouton pour s'en venir m'écouter.
Oui, exact.
C'est pour ça qu'on est engagé aussi une partie de notre personnalité. On n'est pas parfait. Mais il y a un bout qui vient de notre personnalité. C'est ce qu'on dégage, c'est comment on communique, comment on fait vivre les émotions aux gens, comment on est des espèces de catalyseurs. C'est-à-dire que tu as une situation qui passe, ça passe à travers nous autres, puis comment nous autres on la sort, bien ça, c'est notre essence. C'est ce qu'on. C'est notre teinte, c'est notre couleur, c'est notre vécu. Puis, tu sais, on peut. Tu prends 10 animateurs différents, tu prends la même histoire, tu dis, OK, racontez-moi ça à votre manière, à la radio ou à la télé. Mais ça va être 10 façons différentes de la faire passer, tu sais.
Tellement. Puis, tu sais, c'est tellement vrai ce que tu viens de dire. Pourquoi que. On accorde autant d'importance à la critique négative versus la critique positive. Tu sais, il y a la critique constructive aussi qui est très importante. C'est pas de donner exactement.
Ouais.
Parce qu'il y a des gens qui donnent un commentaire qui est pas nécessairement méchamment dans leur tête, qui est dans le but que la personne puisse s'améliorer. Mais de la façon que c'est dit, ça peut être perçu comme un insulte un peu ou un commentaire qui est très négatif par l'autre personne. Fait que, tu sais, c'est de trouver le juste milieu, mais en même temps, l'humain est très mal fait parce qu'on est tous pareils. Je suis pareil également. C'est sûr que le podcast, moi, je ne suis pas habitué d'être, je peux dire, public autant que toi, mais le podcast, ça attire des gens de partout au Québec qui m'écrivent positivement comme négativement. J'ai beaucoup plus de positifs jusqu'à maintenant, mais tu as tellement raison. La personne qui m'écrit un beau long texte positif, je vais faire « wow ». Ça vient me toucher, mais la personne qui m'écrit « j'ai pas aimé ton entrevue, j'aime pas comment tu parles », ben on dirait qu'elle vient de chercher. Là, ça flotte dans la tête. Puis tu dis, non, je parle-tu comme il faut? C'est tellement niaiseux, mais en même temps, je ne vais pas changer qu'est-ce que je suis pour une personne. Tu sais, c'est ce qui a fait, en fait, que tu t'es rendu aussi loin. C'est que t'es ce que t'es, puis t'es comme ça, that's it. Fait que les gens t'apprécient, sinon tu serais pas rendu là. Tu sais, c'est carrément ça.
Moi, j'ai l'impression que on va aller loin dans ça, là, mais comment tu dirais quelque chose à tes enfants, mettons, tu sais? Tu dis-tu, toi, je suis pas capable. Ou tu dis...
C'est ça.
Tu sais, quand tu fais telle affaire, là, t'as-tu déjà pensé que telle chose, tu sais? T'es un parent. Si t'es un parent, il faut que tu sois constructif. Donc, pourquoi tu fais pas ça dans ton entourage? Moi, la force des mots, là, je me concentre là-dessus beaucoup dernièrement. Je me disais, je veux dire quelque chose de délicat à quelqu'un. Puis, dans ma vie, je me suis retenu souvent de dire des choses que je ressentais envers une situation puis de l'autre personne parce que par peur de blesser puis tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, hey, Caroline, mets tes culottes, là, puis dis-le, mais dis-le avec tact, dis-le. Fait que là, je choisis mes mots. Je prends mon temps, là, puis je choisis mes mots, puis je choisis comment je le dis. Pourquoi? Il y a une grosse différence dans la communication si je dis, hey, toi, là, t'es rien que, regarde juste comment physiquement je suis, là, je suis comme ça. Si je dis, hey, quand il arrive telle affaire, moi, je me sens comme ça. Mm. Regarde comment je suis.
Ouais.
Fait que automatiquement, puis tu sais, pas des mots destructeurs qui restent dans le cœur, puis dans la tête, puis tout ça. Fait que je trouve que c'est super important. Puis si tu te mets à faire ça tout le temps, partout, t'envoies dans l'univers une bonne énergie, une énergie constructive et non pas négative.
Ouais.
Fait que qu'est-ce qui arrive, tu penses, si t'envoies de l'énergie positive dans l'univers?
Ouais, tu reflètes ce que tu dégages tout le temps, puis c'est carrément ça, le même principe que tu viens de dire. Mais tu trouves-tu que c'est pire depuis la critique, en fait, est plus difficile ou peut-être que les gens pèsent moins leurs mots depuis la création des réseaux sociaux ou des textos à la radio? Dans votre cas, vous le vivez d'une autre façon. Mais tu sais, avant, il y avait sûrement moins de gens qui avaient le guts de vous appeler en onde puis vous donner vos quatre vérités, que là, vous recevez des textos sur la messagerie texte, puis c'est pas toujours rose-rose, là, on s'entend. Là.
Mais non, puis on s'expose plus qu'avant, c'est-à-dire que, tu sais, nos employeurs, là, ils veulent qu'on soit sur les réseaux sociaux.
Ben oui.
Fait que, tu mets des stories de ta vie, tu mets des, tu sais, moi, je mets de la bouffe que je fais parce que j'adore, tu sais, faire ça. Puis c'est sûr que quand tu fais ça, tu t'exposes à avoir, tu sais, je veux dire, si tu fais rien, tu mets rien nulle part, c'est bien dur de se faire ramasser. Puis c'est tellement rapide, tu sais, t'es sur ton sel, t'attends en salle dans la salle d'attente. Hop, tu recotes une médecine sans dessin. Paf! OK, c'est réglé. Je continue de scroller. Mais ce qui sait pas, là, ce que cette personne-là sait pas, c'est que le 2 secondes que t'as pris pour me dire que t'as un sans dessin, là, moi, ça me rentre dedans. Puis maintenant, moi, j'essaie de répondre assez vite, de dire hey, c'est quoi l'affaire? Là, hop, ben je parle. Les gens oublient qu'il y a quelqu'un au bout. Quelqu'un à l'autre bout, pour vrai, il y a un vrai être humain, parce que ça, je trouve que ça déshumanise un peu des fois les réseaux sociaux.
C'est tellement vrai.
T'écris, puis pow, c'est parti. Moi, je l'ai dit. Puis tu fais ça en rafale, là. Ben, t'as peut-être touché 10 personnes, puis il y a quelqu'un au bout qui va peut-être te répondre, puis ils sont souvent surpris. Quand tu leur réponds rapidement, là, avec tact aussi, là, ben, ils font comme wow, c'est un peu comme change de poste. Je dis pas ça à tout le monde, mais des fois, je fais juste comme hey, ça va. Là, ils font comme, oh my God, il m'a répondu.
Ah oui.
C'est pas un robot qui écrit pour lui.
La télé ressort de l'écran. Là, le personnage ressort de son écran et il capote.
Hein,
je pensais pas qu'il pouvait me répondre. Ben oui, chaque mot a une importance puis un impact. Puis chaque personne est des humains. Un peu comme quand on crie chou à Carey Price au Centre Bell. Ben, tu sais, quand même bien qu'on dit, il payait 10 millions pour se faire crier chou. Non, ça l'affecte. Le gars, c'est normal. Ben, c'est un humain.
Patrice Brisebois, il s'en est pas remis encore de se faire huer à chaque fois qu'il mettait la main sur la rondelle. Là,
ça s'est pas amélioré après sa carrière. Qu'est-ce qui est arrivé quand il est allé à TVA Sport? Tu sais, c'est, sans parler de ça, c'est dommage, mais on dirait que les partisans, c'était comme la tête de Turc du Canadien qui est devenue la tête de Turc de TVA Sport. Puis, tu sais, c'est sûr que le gars, il n'est pas parfait. Il en fait des erreurs. Il se mélange dans ses mots parfois. Puis, mais regarde, ça mérite-tu ça vraiment?
T'sais, des fois, Georges Larac se mélange un peu dans ses mots aussi, mais... Ouais. Tu fais pas ramasser, hein?
Non, ça, c'est tellement vrai en plus.
Genre, il y a le poids à peu près large de mètre, c'est qu'on a dit, je vais pas le cœurer.
Ben non, le Big George, il n'y a pas grand monde qui essaye. Hein?
Non, mais on fait toutes des erreurs aussi. Puis, je pense que quand. Puis, en fait, ce qui arrive avec Patrice Brisebois, c'est que sur la glace, c'était pas des grosses erreurs. Je veux dire, il faisait plein plus d'erreurs que lui, puis ils se sont acharnés, tu sais. Puis, comment tu veux qu'il se défende? Il est sur la glace, il ne va pas prendre le micro de l'annonceur maison pour dire « Hey, guys, je veux juste vous dire, moi, ça me fait quoi, là, quand je suis en train de patiner, vous êtes en train de me huer, là. Oui, ça me touche. » Tu sais, il ne faut pas ça.
Ouais. Ouais, il y en a certains gardiens de but qui ont eu les bras dans les airs. On pense à Patrick Roy puis Carey Price qui l'a déjà fait dans un match pré-saison. Tu sais, c'était pas le micro, comme tu dis, mais dans le sens, ça reflétait en voulant dire « Avez-vous fini de m'écœurer? » Tu sais, c'était un peu ça, en fait. Ouais. Mais un Patrick Roy et un Carey Price peuvent le faire et... c'est sûr, ça l'a sorti de Montréal, le Roy, mais ça reste quand même qu'ils peuvent le faire, puis les gens vont comme faire « Oh, shit, non, OK, c'est
ça. » Oui, mais s'il l'a fait de Roy, puis ça l'a sorti de Montréal, c'est parce qu'il était rendu là aussi. Là.
Il était tanné. Là.
C'est pas juste les buts qu'il a reçus cette fois-là qui a fait que « OK, moi, je m'en vais d'ici. » Ouais. Puis avec le caractère qu'il a, c'est lui qui a décidé qu'il s'en allait. Là,
il est allé voir Corey, puis il a dit « Regarde, c'est terminé. Ouais. » Ciao, bye.
C'est drôle qu'on parle de sport, parce que t'as pas l'air amateur pantoute. Tu regardes ton décor. Là.
Ouais, légèrement, hein, non. Le pire, c'est que je voulais pas faire le podcast dans mon bar, dans mon sous-sol, parce que je m'étais dit au début, je vais le faire dans mon bureau. J'ai un mur blanc en arrière, bien straight, bien neutre. Mais là, en même temps, je me dis... le podcast n'était pas supposé durer autant d'épisodes. C'était vraiment c'était un petit podcast de 10 épisodes au départ, je m'étais dit, qui devait toucher à l'entrepreneuriat au départ. T'sais, ça a vraiment complètement dérivé. Et là, je me suis mis à recevoir quelqu'un qui touchait à l'entrepreneuriat sportif dans le domaine du sport. Et là, OK, ben moi, étant photographe sportif, ben j'ai quand même plusieurs contacts. Là, c'est tellement le fun de recevoir des gens inspirants. Bon, mais ben, je vais recevoir tel joueur de hockey, tel gars de baseball. J'ai reçu Rick Gagné. C'est fou. Là. Je me dis, c'est mon idole de jeunesse. Puis là, je le reçois au podcast. OK, là, je veux toucher à tout ce qui me passionne. La radio me passionne. Je vais te recevoir. Mais pourquoi changer de décor? C'est rendu là, je me dis, les gens vont voir, c'est ma personnalité, je suis un sportif, j'ai mes photos en haut qui sont encadrées, ça fait partie de ce que je suis, puis
c'est parfait.
J'apprécie le faire dans ce décor. Écoute, on va revenir sur ta carrière, parce que oui, c'est ça la beauté du podcast, on peut dériver vers le sport ou d'autres sujets, il n'y a pas de problème, mais je veux qu'on parle, on va commencer par ta belle collaboration avec les Grandes Gueules. C'est vraiment... C'est spécial parce que les Grandes Gueules se connaissaient bien avant ton arrivée avec eux.
Ouais.
Et puis là, toi, tu arrives dans un duo qui devient un trio. Ça a dû être spécial quand même parce que les gens connaissaient déjà la chimie des deux. Ouais. Et là, tu rajoutes un élément externe complètement. Est-ce que tu avais une crainte en arrivant dans ce duo-là de briser un peu cette chimie-là ou de te faire un peu juger aussi? Ou pas en tout cas, c'est pas naturel?
C'est un mélange, je te dirais, parce que j'étais excité d'arriver à cette émission-là. Moi, je travaillais à Sherbrooke à l'époque, j'étais Morning Man. J'avais deux humoristes avec moi. J'opérais la console, j'avais un lecteur de nouvelles, une fille au culturel. Puis juste d'opérer à cette époque-là la console, tout fonctionnait avec des cartouches,
ben
puis
oui.
des CD dans des espèces de cartouches aussi.
Désolé tout le monde, un petit pépin technique. Continue ton point, Richard. Tu parlais que tu opérais une console avec des CD à Morning Man.
Des CD, des cartouches et ainsi de suite. Puis les Grandes Gueules avaient fait une tournée de promotion pour leur spectacle. En fait, ils faisaient une tournée de spectacle. Puis quand ils allaient dans une ville, ils essayaient d'aller dans la station énergie de cette ville-là pour pouvoir plugger leur show, évidemment. Puis moi, à l'époque, mon grand chum, Richard Marquis, était leur producteur à Montréal.
Ah, okay.
C'est lui qui m'a montré à faire de la radio et tout ça. Fait qu'il m'avait envoyé j'ai dit, je reçois les Grandes Gueules. Envoie-moi des trucs, tu sais, des bloopers, des choses comme ça. On s'était super bien préparés pour les recevoir. Ça avait donné vraiment un bon show. Les gars avaient fait des sketchs, les avaient relancés, tout ça. Fait qu'ils s'étaient aperçus que j'avais beaucoup de réparties. Puis j'étais capable, à travers le fait de gérer la console, gérer du monde, et ainsi de suite, de les écouter puis d'avoir de la répartie. Puis les autres,
c'est ça que je
cherchais. Fait que dans leur casting, parce que Pierre Pagé était parti éteindre le feu du show du matin qu'il avait pas levé, que ça s'appelait I Love You, ça avait pas levé.
Hey
fait que, après trois mois, il avait tiré la plug du show, fait qu'il avait besoin de Pierre qui était bien consolidé dans le show des Grandes Gueules. « Viens-tu faire le matin? » Fait que Pierre a fait pendant trois mois le matin le retour. Et pendant ce temps-là, il était en casting pour savoir qui est-ce qui pourrait remplacer Pierre Pagé. Tu sais, Pierre avait accepté de faire le matin. Fait que... Ils pouvaient se permettre, ils montaient comme ça, les Grandes Gueules. Fait qu'ils pouvaient se permettre d'aller chercher une recrue pas connue à Montréal. Fait que moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais pas faire l'erreur d'être, tu sais, d'arriver avec mes gros sabots, puis de, tu sais, les faire comme ça, pas m'installer, tu sais. Fait que ce que je suis fait, c'est que je me suis moulé tu sais, c'était tellement une émission qui était conceptualisée. C'est comme ça que ça marchait, et ainsi de suite. Fait que, dis moi, je vais prendre. En fait, j'ai toujours la même vision quand je m'installe dans un nouveau rôle, c'est que je dis tout le temps, tu sais, mets pas ton crémage tout de suite sur ton gâteau. Fais un bon gâteau avant, là, puis après ça, tu mettras le crémage. Fait que quand j'arrive d'un nouveau show, d'un nouveau projet, je fais la base comme il faut, la base, je solidifie la base de ma job, puis après ça, je rajoute du crémage. Parce que sinon, ton gâteau va foirer, là, tu sais.
Ah
ouais. Fait que c'est allé tranquillement, puis tranquillement pas vite, je me suis fait adopter par les auditeurs, puis tranquillement pas vite, je mettais plus ma couleur, et ainsi de suite.
Mm.
Puis c'était vraiment les grandes gueules, tu sais, puis moi, j'étais là pour les servir, là, c'était ça, là. Puis,
carrément.
Eux autres, tu sais, écoute, leur gérant, Jean-Pierre Cléroux, me l'avait dit, t'es là pour mettre en valeur les grandes gueules. Là. C'est ça ta job, puis il a été, j'aime ça parce que c'était assez clair, ça a le mérite d'être clair. Là.
C'était clair.
Je dis OK, pas de problème. Fait que c'est ce que je faisais, mais tranquillement, pas vite, on s'est rendu compte que, tu sais, moi, j'étais capable de dégainer aussi, puis d'avoir de la répartie, puis on s'est mis à s'amuser avec ça. Puis je me souviens qu'un moment donné, José puis moi, on s'est pogné un peu, puis il m'avait appelé après l'émission, puis je dis bon, ben, regarde, réglons nos affaires, là, on va voir ça. Mais j'avais dit, entre autres, tu sais, là, votre histoire de les deux gars fesses sur l'animateur, là, tu sais,
ouais.
C'est de l'ancien temps, ça. Vous l'avez fait pendant des années. Je dis là, dans notre trio, là, présentement, là, Mario, des fois, là, il fait des affaires de cave, là, tu sais, puis il est spécial, puis des fois, toi aussi, José, tu fais des astuces d'affaires que... Hein? Fait que je dis, pourquoi on fait pas, moi, j'appelle ça la chambre de hockey? C'est-à-dire, dans la chambre de hockey, s'il y en a un qui a une couette de travers, les gars le taquinent. Mais trois secondes après, s'il y en a un qui échappe son jackstrap, pouf, les gars se retournent vers l'autre, taquinent l'autre. Fait que je dis, on devrait plutôt faire un triangle plutôt que de faire un V des deux gars qui ramassent l'animateur.
Oui, parce qu'à un moment donné, c'est quasiment de l'intimidation.
Ben, c'est parce que...
Ça fait partie du jeu, là, mais...
C'est parce que moi, il fallait qu'il cherche souvent, il fallait qu'il cherche loin pour... Parce que, tu sais, je suis un gars bien ordinaire, je suis pas c'est pas des traits... Tu sais, moi, je suis pas un gars qui polarise tant que ça, tu sais, que t'haïs vraiment ou que t'aimes à la folie. Je suis comme entre les deux, j'ai une personnalité comme ça, tu sais, je suis pas trop aux extrêmes. Et je dis, allons-y plutôt événementiel. T'sais, s'il y a quelqu'un, s'il y a un événement sur quelqu'un, on tag dessus, puis après ça, ça revient ça de bord, ça va créer du fun. Puis sais-tu quoi, on a réussi, puis je trouve que ça a donné une dynamique, ça a fait évoluer le show,
oui.
Puis ça a donné une dynamique bien plus active, je trouve, que ce qui se fait. Avant, c'était correct aussi, ils l'ont fait, mais là, on était rendu, je sais pas, on était rendu une coche plus loin, puis moi, ça m'a plu, ça, de pouvoir faire évoluer le show, puis. T'sais, après ça, j'ai eu le même gérant que les grandes gueules qui est devenu un grand chum, t'sais, Jean-Pierre. Puis on en jasait des fois, t'sais, de dire, il m'avait dit, t'sais, c'est vrai que là, t'es plus là juste pour faire valoir les gars. C'est vrai que oui, faut que tu les fasses valoir, mais c'est cool que toi aussi tu prennes ta place puis que tu
es un membre.
Exact. Puis je suis différent des deux. Fait que ça me permettait justement de m'immiscer exactement à un endroit où eux autres. T'sais, eux autres, ils ont tellement été. Ben, sont des chums depuis tellement longtemps que des fois, ils ont des références presque pareilles, tu sais.
Ouais.
Fait que moi, si je pouvais comme être un peu différent, ben j'avais des places pour rentrer, tu sais.
Ouais. Ça t'a-tu déjà fait mal un peu, ce côté-là, de dire que t'es juste un faire-valoir au début, je parle, tu sais, de dire, à un moment donné, t'étais-tu rendu à bout au point de dire, hey, j'ai-tu vraiment envie, moi, d'être le faire-valoir des deux, d'être le gars avec les grandes gueules, ou j'ai envie d'être Richard Turcotte un jour, que les gens me reconnaissent pour ce que je suis. Tu sais, maintenant, les gens te reconnaissent pour ce que tu es, mais à cette époque-là, y'a-tu un moment, ça t'a trotté dans la tête?
Oui, il y a un moment où, tu sais, on a tous des stations de radio, les shows de radio, on a des panneaux publicitaires, tu sais, puis les annonces, tout ça. Puis j'avais été sur les panneaux avec eux autres, peut-être pas la première année, mais entre peu, à un moment donné, j'ai été sur ces panneaux. Et l'année d'après, ils m'ont enlevé de ces panneaux, c'était juste José et Mario, tu sais. Écoute, ça, t'as dit combien ça m'a fait mal, là. C'était comme si... Puis j'en avais parlé, justement, avec Jean-Pierre, le gérant d'époque, qui n'était pas encore le mien, il l'a été après. Puis il avait dit, hey, je sais, c'est moi qui l'ai fait, puis il dit... C'est mon call, là. Je suis obligé de te le dire. Mais c'était mon call, regarde, j'assume pleinement. Mais parce que la façon que j'ai fait ça, puis c'était un peu notre façon d'opérer, les grandes gueules, puis moi, c'est. On le disait à la radio, tu sais.
Oui.
Fait que, mettons, moi, je me souviens encore, puis je l'avais préparé dans ma tête, je m'étais dit, OK, je vais en parler à la radio, je vais trouver une façon de. Puis les gars savaient que j'étais mal à l'aise avec ça, que ça m'avait fait mal, puis tout ça. Fait que. À un moment donné, quelque chose après que ça soit sorti, ces panneaux-là, tu sais, ouais, vous écoutez les grandes gueules avec Mario Tessier, Richard Turcotte, là. Puis Mario Tessier, José Godet, Richard Turcotte, si vous ne reconnaissez pas Richard Turcotte, c'est celui qui n'est pas ses pancartes. Hey, écoute, José Godet éclate de rire. Mais là, je venais tellement de le surprendre, puis lui, c'est le genre d'affaire qu'il aime. T'sais, quand tu dénonces quelque chose avec de l'humour, tu sais, il y a ce côté-là, José, là, un peu dénonciateur, mais tu sais, crunchy. Fait que là, il dit, bon, tu veux qu'on en parle, là, on va en parler. On l'a un peu comme dédouané en onde. Fait que ouais. après ça, ben, c'était le running, ça a permis de faire des running gags avec ça.
Ça enlevait un peu de pression. Ouais.
Ça, c'est le conseil que je dis souvent dans les médias, tu sais. Quand il y a un malaise, au lieu de vivre le malaise, partage avec le monde pour qu'il soit témoin de ça, tu sais. Quand ça se dit, évidemment, là, tu sais. Il y a des affaires qui se disent pas non plus qu'il faut qu'il reste privé, là, tu sais. Mais, je trouve que ça a comme, ça a fait sortir ça a sorti la pilule, mettons, là.
Tellement. Écoute, c'est spécial que tu en parles justement du malaise parce que moi, il y a toujours quelque chose que j'ai le plus remarqué de vous trois. C'est, écoute, moi, comme je te dis, pas pour te vieillir, mais je t'écoute depuis que je reviens de l'école au primaire et jusqu'à commencer le cégep, que là, j'étais dans ma voiture maintenant et là, je t'écoutais avec les grandes gueules dans votre retour parce que j'ai commencé le cégep en 2010-2011. Puis
Mais la question, c'est à quelle année tu l'as fini? C'est ça,
Grande question. 2011.
Comme moi.
Ouais, c'était pas fait pour moi. J'étais en or au cégep, j'ai adoré Lyon Negro, puis ça a pas toffé malheureusement. Mais c'est ça, ça m'a apporté dans d'autres choses, mais par la suite, je me suis en allé sur le marché du travail, puis représentant sur la route, ben, je suis tout le temps dans ma voiture, je vous écoutais tous les jours. Et puis, moi, ce que j'ai remarqué le plus, il y a des jours où je rentrais à job, puis ça filait pas. T'sais, il y a des jours que... Ouais. Des mauvaises soirées avant, une mauvaise nouvelle le matin, puis j'étais down, puis mon boss m'avait déjà dit, écoute, ça paraît dans ta face que moi, je suis un gars très transparent, là, il dit, ça paraît dans ta face, on est capable de savoir que tu files pas. Imagine une chose pour que ça se reproduise pas, parce que le client doit pas se rendre compte que toi, tu files pas, il a pas besoin de savoir tes problèmes personnels. Mais imagine que c'est un porte-patio avec un screen, que tu rentres au travail, tu ouvres la porte, puis tu traverses le screen, tes problèmes restent l'autre bord du screen. Tu ressors après, tu traverses le screen, tu reprends tes problèmes, tu peux le vivre dans ta voiture, broyer, faire ce que tu veux, crier, mais tu le feras pas au travail. Fait que je disais, c'est pas fou, cette image-là m'a resté dans la tête, puis je l'ai jamais oublié. Mais quand je vous écoutais, vous autres, moi, il y a des jours que je filais pas, comme je vous dis, que j'étais down, pas tout le temps, là, mais ça arrivait des fois, et vous autres, vous étiez tout le temps en train de rire, en train de faire les clowns un peu, de faire des jokes, ça punchait tous les jours. Je me disais, coudonc, ils n'ont jamais de l'air de mauvaise humeur. Je comprends que ça doit être un peu un personnage, mais ça doit être difficile, parce que vous aussi, vous en avez des journées que vous êtes un peu plus down. Comment faire pour arriver au travail, dans votre cas, et que ça ne paraisse pas du tout?
D'arriver au travail, non, nous autres... On pouvait arriver dans un état, mais on le disait aux autres boys.
Ah, okay.
Nous autres, la différence, c'est que tu as l'arrivée au travail, puis tu as l'être en onde. Tu n'arrives pas une seconde avant. Puis, fait que des fois, c'est important de le dire. Regarde, les boys, il m'est arrivé ça. Parce que sur le nombre d'années qu'on a fait de la radio, on peut bien s'entendre que c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Puis il y en a eu des bad luck, des journées où tu rentres, tu es en tape, puis des journées où tu rentres, tu es triste parce qu'il est arrivé de quoi. Puis,
c'est ça.
Mais on le partageait souvent, tu sais. Des fois un peu, des fois beaucoup, tu sais. Puis c'est parfait. On savait c'était quoi dans la bulle. Puis moi, je me souviens encore, là, tu sais, là, particulièrement avec José, on avait cette espèce de proximité-là. Quand je savais qu'il était down, là, avant l'émission, là ça se craquait. Puis j'allais à côté de lui, puis je dansais, mais tu sais, là, collé sur lui dans sa bulle, là, dans le même, là. Puis vraiment, là, tu sais, là, puis là, il était là, ah, attends-toi! Là, je dansais, là, puis t'arrêtais pas, là, jusqu'à temps qu'il se mette à rire, il dit, qu'est-ce que c'est, tu sais? Là, je savais que je venais de le sortir de sa tête,
et voilà.
J'étais content.
Puis, ça avait marché. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait pour te rendre heureux quand toi, t'étais down? Il dansait ou?
Il me disait des niaiseries, ça c'est sûr. Il m'insultait, ça c'est sûr aussi. Mais à un moment donné, on le savait. Des fois, on n'avait même pas besoin de se parler. On savait qu'un avait moins d'énergie que l'autre. Puis là, on levait notre jeu d'un cran. On donnait de l'énergie pour être sûr. Fanny, tu te connais, hein? T'es comme un couple. Là. Tu fais comme OK. Je le feel de même. Je vais pas. Je ne vais pas me mettre sur son dos aujourd'hui, tu sais, je vais plutôt essayer de prendre la pression un peu ou peu importe, mais tu sais, on a vécu des naissances, on a vécu des deuils, on a vécu le World Trade Center.
Tu vois en onde dans ce moment-là, d'ailleurs?
Ouais.
Oh là là, ça doit être tough, pour vrai, parce que c'était-tu pendant que... Non, c'était le matin que c'est arrivé, fait que dans le fond, vous
étiez chez nous, on voit ça à l'écran, là, on fait comme « what the fuck? »
Aïe, aïe, aïe.
Là, évidemment, on est touché par l'événement, mais après ça, on fait comme « Hey, attends une minute, là. Nous autres, on est des clowns. Ouais, c'est en allant faire des sketchs.
Aïe, 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 aïe.
Puis le monde est en train de s'écrouler. » Ben, le monde, on s'entend.
Ouais, deux là,
on a, dit, on a fait comme « OK, on s'est appelé. » Puis on a dit « On fait quoi avec ça, là? » Réunion avec les boss aussi. J'en fais quoi? Nous autres, on est là pour divertir les gens, mais à un moment donné, ça prend un peu de décence, tu sais. Exact. Fait que, on avait décidé de faire une émission spéciale avec le journaliste. Puis ça a pris une couple de jours avant qu'on revienne avec des sketchs. Puis on a expliqué après une couple de jours, écoutez, on sait que là, tu sais, bon, le style, on a le constat, là, on est bien triste de tout ça, mais tu sais, nous autres, là, on est là pour vous changer les idées. Ouais. Fait que, apporter un peu de légèreté dans la fin de votre journée qui a été comme elle a été, tu sais. Fait que, êtes-vous d'accord qu'on reprenne les sketchs, tout ça, puis le monde nous avait appelé, « Oh, hey, go, on a besoin de ça. »
On a besoin de ça, là.
on a aimé le son de cloche des auditeurs, puis on a dit, « Oh, let's go, on reprend un sketch. » C'était arrivé la même affaire. Quand on était allé, on faisait un show à Saint-Tite, au Festival Country de Saint-Tite. Puis, en s'en allant, il est arrivé une petite fusillade, c'est jamais petit, là, mais à Dawson.
Ouais, au collège Dawson, 2005 à peu près, ouais.
Je ne suis pas bon en date, en plus.
Ouais, c'était à peu près ça. J'étais au début du secondaire, me semble.
Oui, si je me rappelle bien. Fait que là, en s'en allant, on fait comme, mais encore une fois, on fait quoi, tu sais? Fait que les boss encore, tu sais, c'est vraiment touché, ça. Puis on a décidé de faire l'émission pareil parce qu'on faisait ça devant 1000 personnes.
Donc,
elle allait être là, anyway. Puis on s'est dit, bon, ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer avec le gars des nouvelles, puis on va tenir les gens au courant à coup de 15 minutes. Finalement, c'était pas mal passé, si je me rappelle bien, quand on est entré en onde. Ce qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles pendant notre émission, tu sais. Et je me souviens encore, d'où sa situation géographique. Il y avait une radio de Québec qui avait dit, tu sais, Radio de Québec, des fois.
Ouais.
Ah, donc là, regardez, pendant ce temps-là, une fusillade à Montréal. Pendant ce temps-là, écoutez ce que les clowns font. Les grandes gueules. Ils ont diffusé aussi à Québec, tu sais. C'était diffusé partout au Québec. Fait que là, il faisait jouer un extrait d'un sketch. Puis, tu sais, il faisait par exemple prendre un extrait hors contexte. Puis tu le mets, que ta prémisse, ta mise en scène est avec ce qui se passait à Montréal. Ben, écoute, ça a l'air bizarre un peu. Mais il n'a pas mis 3 minutes avant qu'on a tout ce qu'on a dit pour en arriver là, tu sais. Mais pendant ça, il ne donne pas de nouvelles. Il disait ça, il ne donne pas de nouvelles de ce qui se passe, là. Ils ne sont pas dans l'actualité, puis ils ne vous servent pas. Là, ces gens-là disaient ça pendant, écoute, je pense qu'ils ont tenu ça 45 minutes. Ben, excuse-moi, mais pendant le temps que tu parles de nous autres, toi non plus, tu n'en donnes pas de nouvelles aux gens de ce qui se passe là. Tu fais juste bitcher un autre. Tu es un parasite qui vit sur le dos des autres.
Tellement. Aïe. Ça doit pas être facile, ça, mais en même temps, tu sais, c'est un peu comme avec ce qu'on vit actuellement, la pandémie. Surtout au début, quand il y a eu le confinement, je pensais à toutes les émissions de radio. J'en ai parlé avec Sébastien Trudel aussi, puis il me disait la même chose. Il dit notre but, c'est de divertir le public. Puis là, on arrive que tout le monde est en confinement de. Une catastrophe comme on n'a jamais vu, sans précédent au Québec, en tout cas, pas de notre vivant. Là. Puis là, on se retrouve là-dedans, puis il faut faire rire les gens. Puis on n'a plus rien, tu sais, on n'a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a rien qui se passe dans l'actualité. Il n'y a plus de sport, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Fait que c'est sur quoi tu veux viser vraiment, tu sais, c'est pas évident non plus. Puis je me dis, imagine les grandes gueules s'ils arrêtaient là encore aujourd'hui, ça doit pas être évident. Puis toi, tu l'as vécu aussi étant à la radio durant l'année 2020. Ça doit pas être facile, même si ton mandat n'est pas de faire rire nécessairement, c'est quand même de changer les idées du public. Ça doit pas être facile, j'imagine.
Ben, moi, j'ai l'impression que tu dis, notre mandat, c'est de faire rire les gens, oui, mais quand arrive quelque chose comme ça, ton mandat, c'est de faire vivre les gens.
C'est ça.
Si t'es pas capable d'être leur miroir ou leur espèce de encore une fois, le catalyseur, qu'est-ce qu'ils vivent, c'est important parce que on a beau penser que oui, on est à la radio, puis on dit tout ce qu'on veut, c'est pas vrai. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être dans le quotidien du monde. Puis on fait pas de la radio pour nous autres, on fait de la radio pour les gens qui nous écoutent. Fait que si t'es pas capable d'être dans leur moment, dans leur réalité, si t'as pas cette sensibilité-là ou même la sensibilité de faire de la recherche, savoir okay, qu'est-ce qui se passe là. T'sais, moi, j'ai cette interrogation-là de ce temps-là, le matin, parce qu'on veut bien être proche des gens, puis être dans leur quotidien. Et quand tu te lèves quand tu es en onde à 5h25 le matin jusqu'à 8h20, ben, il y a une évolution dans leur horaire. Mais c'est quoi la révolution? Quand tout est correct, que le monde travaille à l'extérieur pour la plupart, au bureau, ben c'est pas mal égal. T'sais, ils se lèvent, ils font ci, ils font ça, ils déjeunent. Après ça, bon, ils s'en vont, ils prennent l'autobus, ils prennent le char, peu importe, le métro. Après ça, ils arrivent à la job. Et bon, et là, trois quarts travaillent chez eux.
Ben, c'est ça.
Les enfants ne sont pas à l'école. Présentement, ils rentrent à l'école là. Mais c'était ça mon questionnement. Je dis, oui, tu veux que je me connecte aux gens, mais
À qui tu parles?
Je ne sais pas ce qu'ils font présentement. Ouais. C'est bien, bien bigarré un peu. En tout cas, là, je pense que ça va prendre une certaine structure. Là,
ça
maintenant
commence,
que la rentrée revient, là, bon, les parents n'auront pas le choix s'ils travaillent de la maison. Il faut quand même que tu mettes tes enfants à l'autobus ou que tu ailles les porter. Mais c'est ça. C'est de se brancher sur le quotidien des gens. Puis il faut avoir cette espèce de sensibilité-là pour. Ben, si tu fais ça et que tu n'aimes pas les gens, tu es déjà dans le chenou. Quand tu aimes les gens, automatiquement, tu t'intéresses à eux autres. Puis c'est ça qui est important. Il faut leur donner la première place. Ma clientèle, là, qu'est-ce qu'elle voudrait ce matin ou aujourd'hui? Mm. C'est que tu leur sers.
Aïe, aïe, aïe. Puis ça doit pas être évident non plus parce que, tu sais, avant, tu le sais qu'il y a des millions de personnes dans le trafic en même temps, à telle heure, 5, 6 heures, c'est l'enfer, c'est jamais partout. Mais là, c'est encore un peu jamais partout, on s'entend, mais ça reste que, tu sais, comme il disait hier d'ailleurs, que 70 % des fonctionnaires qui sont encore en télétravail et que ça va devenir permanent. C'est 70 % de monde qui sont plus sur la route, qui allaient dans le métro ou en auto à leur bureau à Montréal et qu'eux syntonisaient votre poste, que là, ils ne syntoniseront pas parce que même moi, je l'avoue, j'écoute beaucoup moins la radio, malheureusement, parce que j'adore la radio, mais je peux moins l'écouter parce que je travaille de chez nous. Fait que, tu sais, quand je suis de chez nous, ben, c'est sûr que la radio est moins. Tu n'es jamais dans la voiture la plupart du temps ou quand je fais d'autres choses comme l'entraînement. Il y a sûrement aussi une diminution des codes d'écoute qui est hors de votre contrôle que vous avez remarqué à cause de la pandémie?
Ben, c'est de l'écoute différente, c'est sûr. Tu n'écouteras jamais la télé dans ton char. Là. Fait que, mais on est un média de déplacement. C'est la meilleure affaire que tu peux faire, c'est si tu veux être informé dans le beat de ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'écouter la radio dans ton auto ou en déplacement avec ton écouteur. Fait que oui, c'est une réalité, mais en même temps, tu sais, s'ils demandent aux artistes de se réinventer, il faut qu'ils demandent aussi aux différents médias, en fait, à tout le monde de se réinventer.
Oui.
Si les gens travaillent de chez eux, ils sont obligés de se réinventer. Ils sont obligés de se réinventer une vie, de nouveaux rythmes. Puis, tu sais, moi, ma blonde, travaille d'ici, là, travaille de la maison depuis. Elle s'entraîne le matin dans la cuisine. Ben, pas dans la cuisine, dans la salle à manger, elle a une place, là, puis elle a fait son petit training, là, avant de commencer sa journée, tout ça. Ben, tu vois, elle a réinventé sa routine matinale. Puis, c'est comme ça, c'est surtout quand on ne pouvait pas sortir, tu sais. Elle dit, on est là, on est en quarantaine, ben, moi, m'entraîne à la maison.
Il n'y a plus de gym.
Après ça, je déjeune, je prends la douche, puis je m'en vais dans le bureau, puis je travaille toute la journée.
Ah, il y a des choses qui vont changer à cause de ça, parce que chacun a adapté une nouvelle routine, comme, exemple, ta blonde qui allait peut-être au gym, là, elle se rend compte que ces entraînements-là, elle est capable de le faire en bonne partie à domicile, que le résultat est peut-être similaire, elle sauve de l'argent, ben, sans rien parler contre les gyms, peut-être qu'elle va dire, ben, écoute, je ne vais pas renouveler mon abonnement, ou, tu sais, le fait qu'on va chercher plus de take-out au restaurant, mais moi, je me suis rendu compte, il me semble, ça fait longtemps, j'ai pas été chercher une bouffe rapide puis manger dans une salle à manger d'une bouffe rapide. Je vais la chercher puis je la porte chez nous tout le temps. C'est des habitudes qu'on a évolué en si peu de temps sans s'en rendre compte. Et les travails, tout ça, c'est toutes des choses qui viennent changer un peu la routine de chacun. Ouais. Mais vous, à la radio, c'est quoi vous avez remarqué le plus gros changement jusqu'à maintenant, au-delà des auditeurs, je peux dire, toi directement au niveau de ton travail, qu'est-ce qui a le plus changé?
Pas grand-chose, à part toutes les mesures de, tu sais, comme partout, pas grand-chose, parce que nous autres, la radio, c'est un média de proximité, tu sais.
Mm-hmm.
Donc, on reste proche des gens pareil. C'est juste que, c'est ça, comme je te dis, on y va plus du cas par cas, tu sais. Toi, tu fais quoi ce matin? Toi, tu fais quoi ce matin? Puis, tu sais, j'ai même dit à ma gang, je dis, quand on va avoir des appels, là, j'aimerais ça que vous preniez le nom en note, là, juste le prénom, peu importe, mais peut-être l'âge, puis la ville, puis qu'est-ce qu'elle fait avec l'heure? Comme ça, on va avoir une espèce de statistique maison de dire, OK, nous autres, nos auditeurs, là, grosso modo, là, à telle heure, ils font ça, vers telle heure, ils font ça, vers telle heure, ils font ça. Puis on va pouvoir s'adresser à eux autres encore plus clairement dans leur quotidien puis avoir des réflexes aussi plus précis sur, il est à l'heure, mais là, vous êtes en train de déjeuner, tu sais, puis on leur parler vraiment dans leur quotidien, leur réalité précise.
Mmh. Oui, c'est un bon... ça devrait être ça. Possiblement que ça risque d'aider également à cibler un peu mieux que l'auditeur se sente un peu plus interpellé également et d'avoir une meilleure connexion avec le public aussi. Hein? Mais d'ailleurs, ça me fait penser, Rouge, là, parce que toi, maintenant, tu es rendu à l'antenne de Rouge et puis c'est la même famille qu'Énergie, là. C'est la même Bell Media, en fait. Et puis, est-ce que tu trouves, parce qu'il y a quand même un gros changement, j'avoue que j'ai pas le réflexe de syntoniser Rouge parce que moi, je viens d'une époque que c'était... t'es un jeune, t'écoutes Énergie ou c'est quoi? Ça a toujours été, là, tu sais, c'est ça ou 95.9 quand t'as le goût d'écouter plus anglophone. Ça a toujours été ça. J'étais un maniaque de sport, j'écoute 91.9. Puis là, je me dis, rouge est devenu un nouveau réflexe pour les jeunes parce que là, on dirait j'écoute Énergie. Je vois des classiques rock des années 80. Ouais. Le marché cible a complètement évolué. Je pense que c'est voulu aussi également. Est-ce que vous avez de la misère, d'après vous, d'aller chercher un peu les jeunes au niveau de rouge? Parce que je pense que c'est ça le but initialement, de rajeunir un peu la clientèle.
Bien, ça, je pourrais pas te le dire parce que moi, je viens d'arriver, mais quand j'écoute la musique, quand j'écoute le ton, quand j'écoute les propos, quand j'écoute Véronique et les Fantastiques, tu sais, je me rends compte que c'est pas vieux partout comme son, comme propos, comme beat. Je vais continuer de cultiver ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la radio, c'est en constante évolution. Tu sais, je vois un peu les stations de radio comme le système solaire, tu sais, c'est-à-dire que une station est là, une station est là, une station est là, puis là, oups, celle-là change un peu de place. Ouais. Les autres stations, font les autres planètes aussi, bougent un peu pour essayer de se situer, puis de toujours essayer d'avoir un certain marché d'auditeurs unique, même si c'est difficile d'avoir des auditeurs qui ont juste une station, puis il y en a, là, tu sais, que c'est... Bon, ma radio est là, puis elle bougera pas de là. Mm-hmm. Ben, c'est ça le but, c'est d'essayer de créer de l'appartenance. Là.
C'est un gros changement quand même. Là. C'est un gros changement.
Mais ça va toujours changer. Dans 5 ans, je ne sais pas le son qu'on va avoir, puis je ne sais pas le son qu'Énergie va avoir, que c'est quoi elle va avoir, mais c'est en constante évolution, puis c'est parfait comme ça. T'sais. Sinon, là, on va être des dinosaures qui ne bougeront jamais, puis que, tu sais, à un moment donné, tu veux être... Ben, c'est ça. Tu veux inventer des nouvelles affaires aussi, des nouveaux sons, des nouvelles références aussi. Ça vient avec le fait que tu avances, tu continues, tu bouges.
Tellement. Puis c'est sûr que, tu sais, la radio, ça reste que ce que je trouve le plus le fun de la radio, c'est le côté en direct. Malgré que ça peut parfois créer sûrement des malaises, là, que ça peut créer des bouts que vous dites « Ah, mon Dieu, je peux pas croire qu'on a dit ça » puis que ça va revient parce que c'est tellement direct. Puis ça reste qu'on dirait que, tu sais, la radio date de tellement longtemps. Et ça l'a évolué, mais en même temps, le côté de dire ce que tu penses directement au public.
Spontané,
c'est exactement le mot que je cherchais. Le côté spontané est resté, mais là, il faut que tu fasses attention parce que tu es en 2020, puis que tout ce que tu dis maintenant va être retenu contre toi, que tu sais exactement que tu as pu, un peu comme avec Mike Ward, le petit Jérémy, tu sais, tu peux plus déborder rien que tu pouvais faire en 90, peut-être, qui fonctionnait. Est-ce que tu trouves que la radio est plus difficile aujourd'hui à cause de ça, le côté que spontané est plus...
Ben, au niveau de l'humour, c'est plus difficile.
Ouais.
C'est sûr que c'est plus difficile. Puis, tu sais, nous autres, on ne se le cachera pas. Là, je veux dire, les grandes entreprises qui ont des radios maintenant, c'est plus des stations locales là, qui étaient détenues par... tu connaissais le propriétaire, puis il venait te voir, puis une petite tape dans le dos en passant. « Bonjour, M. Côté. » Ça n'existe plus. Là, c'est
des grosses voix, les gens de Belle.
Ben, j'en vois, mais je veux dire, je me rends jusqu'en haut, je ne sais pas. Là, je connais pas l'escalier qui serait jusque-là. Mais cela dit, c'est pas qu'ils sont intouchables, puis qu'ils ne sont pas parlables. C'est juste que eux autres, c'est des grandes entreprises qui sont cotées à la bourse, puis peu importe que ce soit Belle ou une autre entreprise, puis ils n'aiment pas ça, là, avoir des papiers qui parlent, tu sais, des gens qui sont en onde, qui auraient peut-être dit quelque chose qui aurait peut-être pu mal virer, tu sais. Fait que c'est sûr que là, on est rendu qu'on... mettons, des RBO, les cyniques, tout ça, ça recule dans le passé. Écoute aujourd'hui, tu dis, hey, mettons, je me sens en onde là, live, là. Ça va pas durer 5 secondes, là.
Recule pas si loin, là, mais les caméras café. Écoute, caméras café, saison 1, 2, 3, là, je me sers taper ça récemment, là, avec Martin Matt puis Pierre Brassard. Ça fait pas tant longtemps.
Des connotations sexuelles là-dedans, des gars qui checkaient les filles, puis tout ça, tu dis...
Hey, ça passerait plus à télé, là.
C'est ça. Fait que, donc, quand on dit qu'on évolue, oui, nous autres, on suit les courants. Mais effectivement, qu'en humour, ça te donne un petit... Faut que tu rajoutes une couple de filtres avant de parler, tu sais.
Ouais.
Fait que, mais... Quoi te dire, à part qu'ils veulent qu'on soit punché, ils veulent qu'on soit drôle, mais que...
On peut pas trop puncher.
C'est ça, faut... Tu ne peux pas puncher trop instantanément si dans ta tête tu fais comme j'ai un petit doute. T'sais. Fait que là, c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte.
Exact. Mais tu penses-tu que j'ai posé la même question à Sébastien Trudel au niveau des justiciers masqués, surtout qu'eux, ça fait plus longtemps que les grandes gueules qui sont plus actifs. Mais est-ce que tu penses qu'un retour des grandes gueules dans les années 2020 est réalisable compte tenu de ce qu'on vient de dire exactement?
Non.
Non. Justement, quand c'est trop difficile.
Parce que les gens, si les gars revenaient. Les gens voudraient avoir des sketchs.
Ouais.
Les gars ne veulent plus faire de sketchs à cause de tout ce qu'on vient de se dire. Puis c'est beaucoup de travail.
Tellement.
Imagine le travail de dire ta joke est excellente, mais on ne la prendra pas. En as-tu une autre? Ah, là, ben, tu fais ça, mais à longueur de journée, pour faire quatre. À un moment donné, c'était 6 sketchs de 4 minutes.
Hey, c'est de la job. Hein?
C'était une job infernale. Fait que là, quand tu es rendu que tu te. Hey, parce qu'à l'époque, là, quand ils ont commencé, là, ils ne se creusaient pas la tête à savoir si ça passait ou si ça passait pas.
Il n'y avait pas un avocat, là.
Non, pas en tout. Là. Ça y allait par là, puis bing, 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 tu sais. Fait que ça, c'est devenu difficile. Puis, tu sais, d'avoir. Tu sais, tu parles de quelqu'un, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là. Tu dis que son beau-frère avait un bec de lièvre, tu fais une joke sur le bec de lièvre, tu recevais une plainte, tu disais, hey, ben, j'arrive pas à croire que vous avez fait ça. Moi, mon fils a un bec de lièvre. Oui, mais c'est pas contre ton fils qu'on a écrit ce gag-là. Tu comprends? C'est une référence, une image. Hey. Puis, regarde, comprends que ça fait pas ton affaire que ton enfant a un bec de lièvre. C'est correct, ça. Mais c'est pas ça, l'affaire. On est rendu là, tu sais.
Ah, c'est...
Chacune de tes références, il faut quasiment que tu les vérifies quatre fois. Pour être sûr que ça ne touchera pas personne, qu'il n'y aura pas personne qui va prendre ça personnel, et ainsi de suite. Mais c'est plus de l'humour à ce moment-là. L'humour, c'est ça. Hein? Écoute, ils vont des champs, là.
Hey, bye-bye.
À l'époque, là, ils disaient toujours le contraire, mais les gens qui le prenaient au premier degré étaient outrés. Mais imagine aujourd'hui, s'ils ne catchaient pas son deuxième degré, là.
Non, c'est... toi, t'es rendu trop méchant aujourd'hui.
Dans les salles,
ah, exact. Mais tu sais, en même temps, vous en avez vécu aussi des controverses. Une coupe avec les grandes gueules, tu sais, je ferais pas trop de résumé des mauvaises, des mauvaises choses qui est arrivé avec les grandes gueules, mais tu sais, ça fait partie un peu du le côté spontané, l'humour, le deuxième degré que malheureusement, des fois, les gens ne comprennent pas ou des poursuites qui peuvent être engendrées. On pense à Renan Gélil ou Grégory Charles, tout ce qui est arrivé. Tu sais, c'est malheureux, mais ce n'était pas volontaire de blesser ces gens-là au départ. Et comment vous le vivez quand vous travaillez fort pour faire un gag, pour faire rire, que toi, peut-être, tu les as mis en valeur dans ce sketch-là et par la suite, vous recevez une mise en demeure de grandes personnalités comme Renan Gélil. Puis tu te dis, c'était pas ça le but, mais là, tu sais, on peut faire quoi avec ça? Là,
ben en fait, je pense que c'est deux choses différentes. Grégory Charles, c'est un joke spontané que Joe a lancé comme ça. Puis bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Dans le cas de Renan Gélil, c'était une chanson parodie que les gars avaient lancée. Tu sais, une chanson, tu es allé en studio, tu l'as enregistré, tu l'as fait jouer, le monde a aimé ça, tu l'as fait jouer. Puis je pense que c'est la récurrence qui a fait en sorte que Renan a fait comme là, ça va faire. Là. Surtout que, tu sais, il y avait des allusions là-dedans. C'est un peu tendancieux, là. Mais. C'est ça, des gags aussi. Puis, tu sais, René, il avait fait des parodies, lui, avait dans le temps avec les baronnets. Fait que c'est sûr c'est un peu l'arroseur arrosé. Ce que les gars disaient, c'est nous autres, Céline, on l'aime. René, on l'aime. Je dis, souvent, quand tu vas faire un sketch sur quelqu'un, c'est parce que tu l'aimes. Tu sais. Ça donne des bien meilleurs sketchs quand tu aimes la personne que, tu sais, Éric Lapointe, on l'a reçu, je sais pas combien de fois, on faisait des sketchs sur lui, mais on le ramassait. Ouais, là. Puis, c'était un bon client. Lui, il riait, là, tu sais. Puis,
il en pleurait.
Mais tabarnak, puis là, il voulait nous fesser. Ben, écoute, c'était drôle. C'est le gars qu'on a le plus ramassé dans
la ouais, puis c'était,
mais lui,
c'était quasiment malaisant, puis il en riait, le gars. Là. C'est
ça. Lui, il avait trouvé sa façon d'accepter. Ça le faisait rire, en fait. Puis, mais en même temps, ça lui faisait-il de la bonne pub, tu penses? Lui, c'était notre meilleur client. Nous autres, on le recevait, puis écoute, ça lui donnait de la pub à travers la province. Puis c'était un bon joueur là-dessus. René, ce qu'on disait, c'est que vous auriez pu juste nous appeler pour nous dire. Moi, là, ça me fait vraiment de la peine, ça, gang. Ça touche une corde sensible chez moi ou je sais pas trop. Tu sais, quand les gars sont sensibles aussi, là, quand tu t'expliques, ils ont fait « Oh mon Dieu! Hey, on l'enlève dans l'onde. Désolé, René, tu n'entendras plus. Si on continue de faire le personnage, tu sais, c'est un personnage un peu bande dessinée. Là, tu sais, on sait bien que c'est pas toi, mais on a pris ta voix. Puis bon,
c'est un des meilleurs personnages en plus. Les grandes gueules l'avaient fait. Là, moi, chaque fois que je l'entendais, j'étais crampé. Ça n'a pas aidé avec Michel Richard en plus qui s'en avait mêlé. Mais en tout cas, c'est une autre entrevue légendaire qu'on peut retrouver sur YouTube avec les grandes gueules et Michel Richard. C'était vraiment très bon. D'ailleurs, parlant d'entrevue, quelle entrevue est la plus mémorable que tu as faite durant une émission, que ce soit télévision ou radio, avec un invité que tu vas dire ça, je l'oublierai jamais de ma vie, que ce soit parce que c'est quelqu'un qui t'a tenu à cœur ou c'est parce qu'il est arrivé quelque chose pendant l'entrevue. Raconte-nous ça.
Il y en a peut-être deux. Puis ça, c'est peut-être donner un truc aux gens aussi. Moi, quand je faisais Salut Bonjour au week-end, j'étais pas habitué de faire des grandes entrevues. Ben, des grandes entrevues. Des longues entrevues en étant tout seul parce que je travaillais toujours en équipe. Là, ben, à Salut Bonjour au week-end, j'avais ce genre de grandes entrevues-là. Puis, premier invité, Jean Lapointe. C'est comme wow, un monument, là, tu sais.
Pas évident, celle-là.
Là, je pense à ça, puis je me prépare. Et là, je me dis, puis, Il y en a qui disaient des fois que Jean est à sec. Là, fait qu'il fallait que...
Allez, tu vois, j'allais
le voir. Je dis, monsieur Lapointe, merci bien gros de venir à l'émission. Ah, ça va, pas de problème. Il faut que je fasse un aveu, par exemple. Je dis quoi? C'est ma première entrevue de fond et c'est vous. Je vous admets et ça me rend extrêmement nerveux parce que tabarouette, je trouve que ça commence fort. Là,
Moi, tu y as avoué dès le départ.
Oui, mais ce que j'ai fait, j'avoue que j'ai été un peu manipulateur. J'ai beurré un peu à la tosse épais. Parce que ce que ça a fait, il m'a dit, le jeune, à tous en pas, ça va bien aller, en a que. Fait que. Il a été hyper généreux, tout ça. Il m'a pris de son bord, tu sais. Puis, wow. Moi, j'étais préparé, mais tu sais, ça a fait en sorte que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la table, tu sais. Je me suis placé dans une position pour le mettre comme ça. Ouais,
qu'il soit moins.
Lui, il a fait comme, OK, il me respecte. Il est venu me le dire one-on-one.
That's it.
Il m'a donné du bon jus, puis je serais pas tough avec lui, tu sais. Pas qu'il était tout le temps tough en entrevue, mais fois. Ouais. J'avais entendu dire que des fois, il pouvait l'être. Fait que ça me rendait nerveux. Puis ça, c'est une part, ça, c'est une entrevue. Mais l'autre part, c'est, on parlait tantôt d'Éric Lapointe. Avec les grandes gueules, je me souviens d'une émission où on avait reçu Éric Lapointe, Hugo Lapointe, puis Patrick Huard en même temps. Trois chums.
Ben, frère. Un bon trio, ça.
Ouais. Puis c'est des gars qui aimaient ça se tirer à pipe, puis tout ça.
Ouais.
Quand ils sont arrivés, ils étaient en forme, ils avaient le goût d'avoir du fun, et les sketchs étaient à se rouler par terre.
Ben oui.
On a ramassé... En fait, la beauté, c'est qu'on avait tellement des jokes chiennes sur chacun que les autres étaient tellement fiers quand l'autre se faisait ramasser qu'ils riaient, là. je te le dis, à un moment donné, là, je me suis reculé, puis c'était tellement... Puis tu sais, Patrick Huard, c'est pas le dernier, il est venu non plus, là. Il punchait, il over-punchait, puis Lapointe qui nous offrait des tapes à la gueule, ben, en joke, tu sais. Fait que je me suis reculé à un moment donné, puis je dis, ouais, là, je suis en train de vivre un grand moment de radio. Tu sais, je suis devenu spectateur de mon propre show pendant quelques secondes, puis quand j'en reparle aux gars de ce moment-là, eux autres aussi, ils ont fait comme, ouais, c'est vrai que cette shot-là, là, ce show-là, là, était mémorable.
Wow! Et est-ce que ça te manque un peu ce côté-là que même si aujourd'hui tu as encore un micro, tu as la chance d'être encore en onde à chaque jour, est-ce que c'est quelque chose qui te manque un peu, c'est ce côté-là qui est un peu le party dans le studio avec les grandes gueules, de dire que tu sais, c'est des fois, ça pouvait dégénérer au point que tu n'es même plus capable de parler tellement que tu as des crampes dans le ventre. Là, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut te manquer un peu, ce côté-là, ou tu dis ben, regarde, tu fais le tour?
Ben, c'est sûr qu'on a fait le tour. Parce que moi, ce que je leur disais à un moment donné, c'est, tu sais, les gars, à quel âge on va arrêter de faire ça? T'sais? On va avoir l'air de quoi?
À
55 ans, de faire comme, il n'y en a pas de job, il n'y en a pas. À un moment donné, tu ne veux pas devenir une parodie de toi-même. Ouais. Fait que, à un moment donné, il faut savoir se retirer quand tu es en pleine gloire, parce que sinon, tu ne peux que descendre. Surtout que nous autres, c'était tellement formaté ce show-là. Que les gens ne voulaient pas d'autre chose. T'sais. Fait que des fois, on essayait des trucs pour sortir du pattern un peu. Puis, nous autres, on veut des sketchs. Oui, mais c'est parce qu'on est capable de faire d'autres choses aussi. On peut s'exprimer sur d'autres choses. Fait que,
ça, c'est triste un peu.
La réponse à ça, c'est que je te disais tantôt que la radio évolue tout le temps. Moi, j'aime ça, le fait que la radio évolue. J'aime que la vie évolue aussi. Fait que je regarde rarement en arrière et dire les pires chauffeurs québécois, j'ai adoré ça, faire ça. C'est fini. On trouve d'autres choses, on fait un autre show, et ainsi de suite. Fait que moi, je suis comme ça. Je suis pas très nostalgique dans la vie.
OK. Ah, c'est peut-être ça la différence. C'est, j'ai un côté nostalgique que je me dis tout le temps, « Ah, mais ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas? » Oui, mais ça l'évolue. Il faut toujours se dire ça. Ça l'évolue. Puis en même temps, je me souviens dans les derniers temps, je pense que c'est peut-être ça qui est un peu difficile. Puis j'ai entendu beaucoup d'entrevues. Les gars en parlent librement aussi. C'est que... Il y en a peut-être un des deux qui voulait que ça continue, puis l'autre qui n'était plus rendu là. Je pense que c'était José qui disait que lui, ben regarde, il avait besoin de faire des projets plus télévisuels, puis d'aller vers une autre dimension un peu qu'il n'avait pas touché encore. Ouais. Puis Mario, ben lui, ben écoute, non, on serait capable d'en faire encore un an de plus. Puis quand que les gosses commencent à se séparer un peu comme ça, ben tu sais, là, toi, tu es entre les deux. Est-ce que ça te faisait un peu peur, l'incertitude, que là, tu disais, ben là, ouais, qu'est-ce qui arrive avec moi parce que je vous suis, là, tu sais, c'est un peu ça, me semble. T'avais-tu une certaine incertitude à ce moment-là ou pas
peur? Ben, il y en a toujours un peu, tu sais, quand tu tombes dans le vide avec rien. Mais tu sais, c'est pas la première fois que ça m'arrivait, puis tu sais, ça m'est arrivé encore, puis là, tu rebondis, puis tu regardes comment tu... réinvente. C'est mon
comme on dit au début.
Plein d'énergie le matin, tout seul. Moi, j'avais rarement animé tout seul à la radio. C'était pas mon but dans la vie. Mais je l'ai pris comme un défi. J'ai réappris à faire la console parce que si on se rappelle tantôt dans le podcast, je racontais que je faisais ça la dernière fois que j'avais fait la console. Moi, c'était avec des cartouches puis des CD. Mais peux-tu te dire qu'on n'est plus là aujourd'hui? Là?
Non, fait ça a changé un peu.
J'ai appris la console avec la dynamique d'aujourd'hui, avec la technologie d'aujourd'hui. Puis je l'ai pris comme un défi. Je fais quand, hey, c'est ça que la vie m'envoie, là. C'est ça que je fais. Et je me suis dit, c'était quoi déjà que tu voulais faire, toi, dans la vie, quand tu avais 15 ans, de la radio? Ben, c'est ça.
T'en fais encore.
T'en fais, là. Fait que, ah ouais, à job, fallait. Puis, sais-tu quoi? J'ai aimé ça d'avoir à faire face à ces défis-là parce que tu te dis, c'est jamais fini. C'est jamais exact. Fini. Il y a toujours quelque chose que tu as à apprendre, que tu as à positionner. Puis, probablement que je suis encore un peu meilleur depuis que j'ai animé tout seul parce que ça m'a remis dans d'autres dispositions puis que ça m'a préparé à apprendre puis à être.
Ouais.
À évoluer.
Parce que chacun, ça vous a fait évoluer, chacun de votre bord. Tu sais, on a vu José qui est parti un peu en solo, si on veut, parce qu'après ça, il était avec Marie-Christine Proulx aussi que de l'année suivante. Et toi, d'ailleurs, que vous avez recollaboré un peu ensemble sans Mario. Puis, tu sais, chacun a comme pris sa voie, mais ça a fait que chacun a développé des nouveaux, je pourrais dire, des nouvelles qualités, des nouvelles sphères qui étaient peut-être moins à l'aise, comme tu as dit tantôt. Puis tout d'un coup, whoop, là, t'es devenu un peu meilleur dans ce que tu étais. Puis aujourd'hui, ce qui a fait que la chaise que tu as aujourd'hui, tu es peut-être encore plus à l'aise dedans à cause de tout ce qui est arrivé dans les dernières années. Puis de ce que je remarque le plus de ton discours, ce qui ne change pas avec les années, c'est la passion. Je pense que c'est ce qui te rejoint le plus de ce métier-là, c'est que tu es encore passionné après toutes ces années-là. Puis c'est ce qui fait que tu es encore aussi bon puis que les gens continuent de t'écouter à chaque jour puis on le ressent. On le ressent dans ton parler. Tu es toujours passionné de la radio. Puis j'imagine que ça n'arrêtera pas étant donné que ça fait autant d'années que tu en fais.
Ah ben, écoute, hier soir, 22h39, je textais avec ma productrice radio alors qu'on se lève à 3h15.
Aïe, aïe, aïe.
Parce que je disais, hey, tel détail, tout ça, tu sais. C'est sûr que plus jeune, j'étais moins dans le détail, tu sais. J'étais plus dans... Puis, tu sais, quand on dit que ça évolue, à l'époque, là, tu vendais du feeling, puis c'était correct, tu étais top, top. Maintenant, tu sais, faut que tu sois tight, faut que tu sois... Parce que les gens changent vite de poste. Avec tout ce qui arrive maintenant, les gens
c'est vrai, ça. C'est
tellement... Ils ont toujours le device, excuse-moi.
La gâchette vite.
Ils ont toujours la radio au bout du doigt, tu sais. C'est-à-dire que si tu es sur ton téléphone, tu as l'application iHeart Radio, tu fais comme...
Change de poste.
Merci, j'ai changé de poste. Tac! J'ai changé de poste. Mais à l'époque, là, tu ne pouvais pas changer de poste comme ça vite, tu sais. Ça prenait quand même une certaine distance avant que tu aies changé de poste. Fait que... Nous autres, il faut accrocher les gens rapidement. Il faut aller dans le sujet rapidement pour les avoir là. Il faut, tu sais, les amener plus loin. Fait que ça vient avec le travail, puis ça vient avec le souci du détail.
Oui, ça paraît fait aussi. Que... Vous essayez souvent, avant chaque pause publicitaire, de dire à venir, dans les prochains instants, on va rencontrer telle personne, telle chose en musique. Puis, tu sais, on dirait que je me suis fait même prendre au jeu l'autre jour parce que je l'admets aussi. Ce que j'haïs le plus, c'est les pauses publicitaires qui sont de plus en plus longues. Je suis incapable de tolérer une annonce. Puis, je pense que je ne suis pas le seul au Québec. Regarde, j'écoute 3-4 postes en même temps. Puis, je sais, exemple, qu'à telle heure, dans le temps, on savait qu'à telle heure, il y avait tel sketch, mettons, de José. Ouais. Bien, je switchais à c'est quoi pendant l'annonce. Puis, whoop, vite, à Yvain, il faut que je revienne. T'sais. Puis, je faisais constamment ça on and off. Mais c'est sûr, c'est pas idéal parce que vous vivez de vos annonces, vos pauses publicitaires, puis c'est tout à fait correct aussi. Mais en même temps, je me dis, vous avez trouvé le truc parce que je tondais mon gazon l'autre jour, j'écoutais la radio, et là, j'entendais justement l'animateur qui disait tout de suite après la pause, on va recevoir telle personne en entrevue, ne quittez pas, puis plus tard dans l'émission, on va avoir telle affaire. Puis là, je me suis dit, ah shit, mais là, si je switch, puis là, je reviens pas à temps, je vais manquer. Ah, puis je vais l'écouter l'annonce, tu sais. Ben, finalement, j'ai resté une heure et demie en onde à cause de ça, tu sais, puis j'ai jamais vu l'entrevue.
Fait que, c'est... Ah ouais, bon, ça va bien.
Ouais, ça a pas bien été, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a réussi quand même à me garder là, mais c'est ta job de faire ça maintenant, ce que tu faisais peut-être moins il y a quelques années, que l'on a plus de pression, j'imagine.
Exact, absolument. C'est la nouvelle réalité de la radio, et puis, c'est comme je te dis, ça évolue, fait que faut que tu... Faut que tu acceptes le changement, sinon... Ça, c'est une autre chose que j'ai appris dans les dernières années, là, c'est... Tu sais, dans la vie, tout change. Puis ça, c'est une réalité qu'il faut que tu acceptes d'emblée. Si tu ne l'acceptes pas, c'est que... Moi, je me suis fait une image. La vie, c'est comme le vent. Puis si toi... puis il va toujours en avoir, là, du vent, tu sais, je veux dire, ça ne va pas arrêter. Si toi, tu n'acceptes pas le changement, c'est comme si tu te braquais, le vent continue de passer, puis à un moment donné, il va te casser. Parce que tu peux pas être plus fort que le vent. Ouais. Fait que c'est là où je me suis dit, non, moi, je vais prendre le vent, puis je vais faire comme un peu, tu sais, mettons, il explique ça dans les arts martiaux, des fois, tu te sers de la force de l'autre. Ouais. À ton avantage, tu sais, quelqu'un te pousse au judo, tu vas le tirer, puis après ça, tu vas le propulser. Ben, moi, je me suis dit, OK, moi, je vais utiliser le vent à mon avantage, puis je vais le prendre, puis je vais me propulser plus loin.
Très bien dit. Oui, vraiment, c'est une belle allusion. Puis écoute, c'est carrément ça que tu fais jusqu'à maintenant. Tu t'en sers très, très bien. Écoute, ce que j'ai remarqué aussi, en fait, c'est de toutes tes années aussi, comme je disais, c'est la passion. Mais toi, quel conseil tu pourrais donner à un jeune animateur qui débute ou qui rêve de faire de la radio aujourd'hui puis qui dit « Hey, ça doit être difficile, tout ça. » Puis quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'il croie un peu plus en son rêve?
Ben, moi, j'adore le slogan de Nike qui dit « Just do it ».
Ah, tellement.
C'est tellement simple, ça dit tellement tout.
Ça veut
là,
tout
si tu me dis « Ouais, mais je veux pas faire ça » ou « Je peux pas… » Pendant le temps que tu trouves des défaites, tu n'es pas en train de le faire. Fait que si ton rêve, c'est de faire de la radio, par exemple, ben prends les mesures qui s'imposent pour y arriver, puis trouve une station qui va t'accepter. Va-t'en au fin fond de la Gaspésie, à Tombouctou, va où tu veux. Moi, ça m'a pris, quand je suis rentré à Rouen, ma première vraie job de radio, ça m'a pris 2 semaines à savoir combien j'étais payé parce que je m'en contre-fichais.
Incroyable.
Je disais, moi, je veux faire de la radio. Le plus dur, c'est d'avoir le pied dans un... Tu sais, entre qu'est-ce que tu fais dans la vie, j'essaye de devenir un animateur de radio ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis un animateur de radio. C'est super important, les deux phrases, là. Il y a une grosse différence. Ouais, quand bien même que tu seras dans une petite ville, tu es quand même en train d'être un animateur de radio. Tu es en train d'apprendre ton métier que tu vas toujours apprendre de toute façon. Oui. Fait que moi, je vois ça comme si tu étais un pilote d'avion. La grosseur de l'avion, le modèle de l'avion importe peu. Ce que ça te prend, c'est des heures de vol. Mm. Après ça, tu auras bien le loisir de changer d'avion une fois que tu vas avoir acquis certaines expériences. T'sais. Fait que moi, c'est pour ça que je suis parti. Je disais, hey, m'en fous, n'importe où. Mon stock était en stand-by chez mes parents. J'avais quitté mon appartement. Mon plan était fait. Là. J'avais dit à mes parents, ça me dérange-tu que je revienne chez vous? Je mets mon stock en storage dans le sous-sol. Je vais juste prendre le minimum que j'ai besoin pour vivre chez vous en attendant. Je veux être à 12 heures d'avis d'être parti de chez vous pour aller faire de la radio. Ils ont fait que, ben oui, bon plan. C'est exactement ce qui est arrivé. Je suis allé rejoindre un de mes chums à Rouyn-Noranda. Je ne suis jamais revenu.
Mais tu as habité à Rouyn pour faire de la radio pendant quelques temps, dans le fond. Là.
Exact, mais j'y allais juste pour aller... En fait, j'allais faire une petite tournée Val-d'Or-Rouyn. Parce qu'un de mes chums était posté là, il était dans l'armée, il était posté là, puis il disait, hey, viens, j'ai une chambre d'hôtel fournie, moi, là, puis il y a 2 lits, viens-t'en, tu vas avoir la chambre fournie, parfait. En montant, j'avais fait mes contacts à Val-d'Or et Rouyn. En arrivant à Val-d'Or, il dit, téléphone pour toi, le boss. Hein? Prends le téléphone, c'est le boss de Rouyn, il dit, t'es-tu capable d'être ici dans 1h15, 1h30? Je sais pas, c'est combien de temps là, entre les deux villes? Ben, il dit 1h15, 1h30. J'ai soupé avec lui, le directeur des nouvelles. Là, il me testait voir si j'étais quick, puis je pense qu'il a été servi. Puis il a dit OK, c'est beau, tu commences ton stage demain, couple de jours pour apprendre, puis après ça, t'embarques en onde. Fait que moi, j'avais un pack-sac pour 2 jours. Là.
Je dire, aïe.
Fait que j'ai appelé mes parents, j'ai adjoint. Vous m'envoyez du stock. Fait que m'envoyer par autobus les boîtes de linge. Puis je suis redescendu 3 semaines plus tard, aller déménager mon stock. Puis mon chum qui était posté là, on a pris un appart ensemble. Ça a commencé comme ça.
Incroyable. Bien, c'est ça, c'est de saisir l'opportunité aussi. C'est un peu ça que je dis dans mes conférences, c'est créer sa propre opportunité parce qu'elle ne va pas tomber du ciel. Parce que je rencontre plein de gens qui me disent, des jeunes surtout, là, qui ont des rêves, des beaux rêves, puis qui me disent, moi, mon but, je veux le réaliser, mais je ne sais pas comment. Puis, j'aimerais ça, mais moi, je ne suis pas chanceux. Ouais, mais tu n'as créé pas ta chance. Il faut que tu as créé, en fait. Puis c'est en cognant aux portes. Puis les gens ne vont pas te donner l'opportunité si tu ne fais rien pour. Fait que, tu sais, toi, d'un sens, tu l'as créé carrément. Puis, regarde, bing, ta carrière a déboulé après ça. Là.
Bien, l'opportunité vient. Tu crées des opportunités dans l'action. Si tu ne poses pas de gestes, tu n'es pas dans l'action, il n'y arrivera rien.
Tout à fait.
Ou ce qui va arriver, c'est ce que la vie décide. C'est pas toi. Tu n'auras pas été un joueur dans ta vie. Tu vas avoir été témoin. Tu sais, tu as juste fait, ah, il est arrivé ça. Ben oui, t'es arrivé ça. Mais tu n'as rien lancé dans l'univers. Tu n'as pas fait d'appel. Tu n'as pas bougé. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas ouvert des livres pour dire, hey, moi, je vais décortiquer tout ça. Ce métier-là que je ne connais pas, que je veux faire. Ce rêve-là que j'ai, mais que je ne connais pas tant les us et coutumes de tout ça. Ben, je vois, bon, là, tu t'en vas à la bibliothèque, tu ouvres tout, tu fais des recherches, tu prends des notes, tu te fais un dossier, je sais pas, tu sais. Au moins, regarde ce que je te dis là, c'est tout de l'action.
Tant que tu fais quelque chose.
Tu brasses l'énergie là, quand tu fais ça. Tu brasses la bonne énergie vers où tu veux t'en aller.
Oui. Puis un jeune, mettons, qui veut débuter en 2020, penses-tu que c'est faisable? Un peu comme François Fortin disait, lui, il envoyait des démos cassettes aux radios. Regardez ce que je suis capable de faire. Il rappelait le lendemain. Regardez ce que je suis capable de faire. Dans ton cas, à toi, j'imagine que dans ton temps, ça fonctionnait aussi plus comme ça. C'était de te faire connaître, de faire voir ce que tu étais capable de faire. Mais aujourd'hui, ça change-tu vraiment quelque chose qu'un jeune envoie, exemple, pas un démo cassette, là, mais un démo audio de ce qu'il est capable de faire au niveau radiophonique à une radio, ou vous autres veulent juste voir où est-ce qu'il a été étudié, ou est-ce que ça a changé un peu là-dessus?
Écoute, moi, je pense qu'ils sont toujours, tu sais, c'est un peu comme de la musique, tu es toujours à vide d'un nouvel artiste, t'es toujours, c'est comme si tu dis, ouais, mais là, la musique ne se vend plus tellement, est-ce que tu penses que les jeunes peuvent encore faire de la musique? Ben, la réponse, c'est oui, ils en font encore, puis ils nous le prouvent, puis, tu sais, je regarde Billie Eilish, puis son frère, là, Phineas. Ils ont fait ça dans leur sous-sol, ça sonne, c'est écœurant, c'est bon.
Fou pareil, hein?
Puis, on fait ça chez eux, dans une petite ville, pas rapport, sans offense, là, mais t'es dans le sous-sol, là. Fait que c'est rendu international. Fait que moi, la personne fait comme, oh, on peut plus faire de la musique aujourd'hui. Puis, je vais te dire, excuse-moi, mais...
Ouais, avec toute la technologie facile qu'on a à la portée de main aujourd'hui, tout est faisable, un peu comme moi avec le podcast. Je suis pas un gars de radio, j'ai rien. J'ai acheté un micro sur Best Buy en ligne. Puis, pendant la pandémie, j'ai même pas été de magasiner. YouTube, tutoriel, comment qu'on fait un podcast. Puis, ça s'apprend. Voilà. N'importe qui peut l'apprendre. Rendu là, c'est d'aller au bout de son ambition, puis qu'est-ce que tu veux faire avec, rendu là? Là,
fait que... Ouais, parce que toi, tu aurais pu dire, je veux faire un podcast, mais je sais pas comment.
Mais je savais pas comment.
C'est ça. Entre je veux faire un podcast, puis je sais pas comment, puis je veux faire un podcast, bon, mais moi, je vais faire des recherches, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais acheter un micro. Là, on a passé de quelqu'un qui a parlé, puis quelqu'un qui a bougé.
Exact.
De l'action. Fait que toute la grosse différence est là. Là. Et des fois, tu sais, faut pas que tu penses que tu es obligé de faire une action qui va tout de suite t'amener à la bonne place. T'sais, le chemin est intéressant aussi pour se rendre là. Moi, j'ai souvent l'humilité de dire, peut-être un premier show, une première chanson, whatever quoi. Ça, si tu mets la barre, là, tu fais comme, OK, ton premier podcast, probablement, qui n'était pas aussi bon que ton dernier que tu vas faire, ton plus récent. Ben, c'est au moins, tu as mis la barre. Tu as dit, OK.
Tu t'améliores à chaque fois.
Je l'ai fait. C'est mon premier show. Ma première expérience, ma première tune, ma première première fois que je suis à la caméra. Bon, parfait, je vais la regarder. Ouais. OK, c'est ça, parfait. Comment je peux m'améliorer à ça? Ben, tu peux faire ça, parfait. Bon, ben, si à chaque fois que tu le fais, ça, c'est moins bon, là, tu as un problème. Mais...
Non. On voit la constante évolution, puis c'est ça le plus important.
Tu vas juste chercher une petite coche à chaque fois.
Oui.
Ben, en tout cas, tout ça pour dire que c'est dans l'action que ça se passe, puis c'est même des petits gestes quotidiens qui fait que tu vas juste donner un petit peu de... Ben, tu montes des petites marches tout le temps. Puis c'est pas le chemin n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'arriver.
Oui, c'est ça. C'est ça le but aussi. Il y a un gars qui m'a écrit hier, Cédric, que je salue, qui a lancé son propre podcast en écoutant le mien. Il s'est dit, ah, ben lui, il connaissait rien là-dedans, puis il l'a fait. Ben moi aussi, je suis capable de le faire. Un podcast sur le hockey. Puis écoute, aujourd'hui, il le fait. Puis écoute, c'est tout à son honneur. Il était zéro à l'aise, qu'il me dit au départ devant la caméra. Puis il dit, c'est-tu normal? J'ai hésité aussi. Mon premier épisode, j'ai bafoué une couple de fois, puis je trouve que je suis pas à l'aise. Ben, c'est normal, c'est ton premier aussi. Le premier, j'ai écouté, je pense que je l'ai recommencé 10 fois mon intro. Il était mauvais, puis j'arrêtais pas de focusser sur tous les petits détails. Mais je me dis, sais-tu quoi? J'ai dit un podcast, la beauté de ça, c'est que c'est imparfait. Je dis, c'est qu'il n'y a rien de parfait, tu fais tout plein d'erreurs, mais les gens vont comprendre parce que tu es quelqu'un comme eux qui parle avec quelqu'un comme un autre. Puis c'est pas comme à la radio ou comme à la télévision que si c'est pas à leur goût, ils vont dire, OK, on reprend. T'as personne qui va te reprendre. Puis dans le pire des cas, tu le couperas dans ton montage. C'est ça la beauté de la chose. Puis c'est ce qui est le fun du podcast.
Nous autres, on a fait beaucoup de directs à la radio. Là, entre autres, on se disait souvent ça, José, Godet, puis moi, c'est que maintenant, quand on fait des shows enregistrés, souvent, on appelle ça sauver la cote. Tu es en train de te tromper, puis là, tu fais quelque chose avec parce que tu as tellement l'habitude de faire du live que tu es en train de faire en sorte qu'ils ne disent pas couper. Tu bâtis quelque chose avec ce qui vient de se passer. Puis je me souviens, quand on faisait Ça commence bien à V, après une semaine et demie, genre, mon gars de sport, pendant une pause, on s'en va aux toilettes, c'était comme le seul moment où on pouvait. On était un côté de l'autre, puis je le vois faire un genre de soupir, là, un gros soupir. Là, je suis comme, hey, ça va, buddy? Il dit, Kim, je suis nerveux. Il dit, ça m'écœure parce qu'il dit, même mes chums me disent que je suis pas pareil à TV que dans la vraie vie. Là, je dis, hey, man, dis-toi une affaire. Les gens détestent ça, les gens parfaits. Parce que c'est, ça n'existe pas. T'as un, fait que si c'est parfait, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas clair, là, tu sais. Mm. Donne-toi le droit à l'erreur. Puis si toi, tu fais une erreur ou il y a quelque chose qui se passe, sois le premier à le dire en ondes. Comme ça, le monde va faire comme, mais on l'aime, lui, parce qu'il est comme nous autres.
Ben oui.
Au lieu de figer, prends-le avec toi, les gens, puis dis-leur, hey, excusez, là, j'ai échappé mon crayon. Bon, allez, on continue.
Exact.
Brisant, tu vas tellement dédouaner tout ça, puis ça va tellement t'alléger l'esprit, puis que tu vas te sentir plus libre. Écoute, à partir du lendemain, c'est réglé.
Wow, ouais, tu vois.
Jamais ça. Il a changé, il était le même gars en homme cordon.
Tellement. Puis écoute, c'est le meilleur exemple que je peux te donner, Gino Chouinard. Tout le monde, tu penses que c'est Monsieur Parfait, mais pourtant, c'est celui qui est le plus aux bloopers à TVA. Il en fait plein.
Ouais, de c'est celui qui fait le plus d'heures aussi à l'antenne.
Ouais, ouais, en direct.
Que, il fait un marathon, lui-là, tous les matins.
Aïe, aïe, aïe.
C'est du beau stock, Gino, ce qu'il fait, là, je vais dire l'affaire.
Depuis tant d'années.
En plus, pour avoir fait son rôle aussi, t'es toujours celui qui fait les liens sur tout. Fait que tu peux jamais baisser ta garde, mais c'est impossible d'avoir l'attention, ton attention. C'est impossible de l'avoir tout le temps. 100 % du temps sur tout. Parce que c'est 4 heures de temps, lui-là. Là. 4 heures, là, c'est le matin. C'est long, puis un matin après l'autre, et ainsi de suite. Puis là, t'as quelqu'un qui te parle dans l'oreille. OK, on va aller rejoindre un tel qui est à telle place. Tout ça. Le cerveau là, travaille, mais de façon incroyable. Moi, je lève mon chapeau parce que c'est une grosse job de faire ce qu'il fait. Salut, bonjour.
Exactement. Puis écoute, parlant de TVA, je vois l'heure qui file, puis il faut que je te parle d'Apoule aux œufs d'or parce que c'est ton nouveau mandat que tu as eu cette année. Là, puis oui, tu as très bien raison sur ce que tu as dit sur Gino Chouinard. Mais comment tu as trouvé ta première expérience à l'Apoule aux œufs d'or? Parce que ton mandat est quand même d'être la voix qu'on entend, puis on te voit aussi visuellement. Là, mais je veux dire, c'est un poste qui était moins là dans l'ancienne version de l'Apoule aux œufs d'or. On l'entendait, exemple, l'œuf, mais je me souviens plus, je pense que c'était peut-être même dans le temps Guy Mongrain qui le disait de vive voix, mais il n'y avait pas vraiment quelqu'un comme toi qui était le narrateur en tant que tel.
Oui. Ben, écoute, moi, ça, c'est... Ben, c'est drôle parce que j'ai dit à ma blonde, tu devrais venir à un enregistrement, tu vas voir c'est quoi le feeling. Puis je disais, moi, je sors de là, j'ai le sourire dans la face parce qu'on fait juste vendre du bonheur.
Ah, tellement. Tu
sais, la vie est tellement compliquée aujourd'hui, des fois, là, tu fais comme, c'est tellement lourd, des fois, que nous autres, là, quand on arrive là, du bonheur. C'est là, c'est le... Fait que les gens viennent, ils sont heureux, ils ressortent avec plus d'argent. Les gens qui sont dans les estrades, ils connaissent ceux qui gagnent d'argent. Puis on s'amuse. Fait que à partir de là, fait que moi, c'est quelque chose que j'adore faire. C'est pas compliqué, c'est le fun, on se casse pas la tête, on vend. Puis tu sais, j'aime avoir c'est un peu pas ce rôle-là, mais être dans cet esprit-là, justement, de jaser aux gens, puis de les faire rire, puis on a vraiment du fun. Fait que c'est un rôle qui me va bien parce que je mets mes chums en valeur aussi. Puis, tu sais, je fais le pont entre les spectateurs, ben, en fait, les participants puis les animateurs. Fait que j'adore ça. C'est une autre corde de plus à mon arc.
Ben oui, exactement. Puis est-ce que ça va revenir en 2021, en fait, avec la pandémie? Tu sais, il y a un public à la poule puis qui est très proche. Est-ce que ça va pouvoir avoir lieu?
Écoute, à moins que je me trompe, là, mais je pense qu'on revient en octobre.
Oh shit, OK, mais avec un public très distant. Là.
Exact. Mais regarde, c'est la nouvelle réalité. Hein?
Oh,
j'ai enregistré Ceci n'est pas un talk show cette semaine avec Pierre Hébert. Puis
on a fait
ça à la Place des Arts, mais la Place des Arts, tu sais, c'est une salle de spectacle. Ben oui. Tu peux séparer les gens. Si t'étais dans la même famille, tu peux te coller. Okay. Fait que, tu sais, il y avait toujours comme la distanciation puis vraiment des règles très, très strictes sanitaires. On l'a fait pareil, puis le monde riait pareil, puis le monde a du fun, mais...
Comme ça va changer le monde de la télé.
Tout évolue, tout change.
C'est débile. J'écoutais hier même qui disait les acteurs, tu sais, dans District 31, ils peuvent plus avoir plus que 15 minutes de rapprochement dans un plateau de tournage par jour, puis qu'ils vont prioriser peut-être les couples, les gens de la même famille pour pouvoir se rapprocher un peu plus. Ça va tout changer le domaine de la télévision, que ce soit même, comme tu dis, les spectateurs. Peut-être qu'ils vont aller prendre plus de grosses familles pour avoir plus de gens collés dans les estrades visuellement. Tu sais, c'est incroyable.
Il faut accepter le changement. Tout change. Ouais. Fait que,
exact. Comme ça. Écoute, Richard, je vais te laisser là-dessus. Le temps file, puis tu m'en as donné en masse. Là, ce que je viens d'avoir l'heure filée. Puis écoute, c'est vraiment très apprécié ta générosité. On a en masse eu de la chance de parler de ta carrière, de tous tes meilleurs coups que tu as faits avec les grandes gueules, de voir justement ton impression sur l'évolution, tes conseils aussi pour les gens qui désirent se lancer dans le merveilleux monde de la radio aussi. Mm-hmm. Puis que, tu sais, c'est quelque chose que je pense qui mérite d'être mis de l'avant encore plus. Puis on est dans une rentrée en plus en ce moment de la radio. C'est ta première semaine à Rouge aussi avec ton nouveau défi du matin avec Anne-Élisabeth Bossé-Miqueur. Fait que vraiment, écoute, félicitations, continue ta belle carrière. Puis un énorme merci d'avoir accepté mon invitation.
Ça fait plaisir, mon ami. À bientôt.
Salut, merci beaucoup.
Salut.